6h57 sur Europe 1, très bon réveil, je vous souhaite une très belle journée. Votre réveil à présent avec Mathieu Béliard, c'est le 7-9 qui démarre. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Jeudi 26 novembre 2020 sur Europe 1, soyez les bienvenus. Écoutez le monde changer ce matin, le monde se réveille sans Diego Maradona. C'est le but du siècle. C'est le but du siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est la FIFA. Le plus beau but de tous les temps, finalement. Argentine-Angleterre 1986, demi-finale de Coupe du Monde. Diego Armando Maradona remonte la moitié du terrain. Il dribble l'Angleterre tout entière. 4 minutes avant seulement, c'était son but de la main. La main de Dieu. Diego Maradona, émotion mondiale. Nous vous emmenons ce matin à Buenos Aires, à Naples, où le numéro 10 argentin était roi. Réaction par dizaines sur Europe 1 ce matin. Vous entendrez les voix de Zidane, de Messi, de Ronaldo, de Pelé. Mais ce n'est pas que le football, Diego Maradona. Sexe, drogue et rock'n'roll avec cette icône, véritable idole, icône pop. Après le journal de 7h, nous appelons l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. Vincent Hervouet nous parlera du Maradona politique, ami des Castro, Chavez notamment. Et vous entendrez ce matin le journaliste Didier Roustan qui voulait monter un syndicat de joueurs avec Diego Maradona et Eric Cantona. Rien que ça. Pierre-Louis Basse, la voix du foot pendant des années sur Europe 1. Il nous racontera tout à l'heure sa rencontre à Naples lorsque le joueur était annoncé à Marseille. Le service des sports mobilisé. Nous allons retrouver Jean-François Pérez tout au long de nos éditions. L'édito sport, bien sûr, pour Virginie Fulpin. C'est le foot de notre enfance qui s'en est allé. Vous ne manquerez rien ce matin, alors que la planète football tout entière est saisie d'émotions. Voilà quelques éléments du programme, quelques seulement. Il est 6h59. Laurent Cabrol, bonjour.
Bonjour Mathieu, rebonjour à tous.
La météo avec vous.
Oui, avant toute chose, je voudrais quand même indiquer à nos amis que la fin de semaine sera marquée par du gros temps sur le bassin méditerranéen. Vraiment de très grosses pluies avec beaucoup de vent. Et c'est un danger qu'il faut d'ores et déjà affronter ou préparer dans votre esprit, chers amis, si déplacement il y a. En ce qui concerne ça c'est pour la Méditerranée et c'est pour la couleur du ciel. Mais en ce qui concerne les températures, attention, là aussi, le week-end prochain plus la semaine prochaine, les températures vont vraiment baisser et nous passerons largement pour de nombreuses régions sous les 0 degrés. Bon, voilà, ça ce sont pour les mises en garde. Aujourd'hui, c'est un temps relativement simple avec près des côtes de la Manche des nuages qui seront assez têtus, mais sur la partie côtière. Et puis ensuite, plus on descend, plus les éclaircies sont là. Alors des brumes sur l'île de France, la Picardie, la Normandie, des éclaircies sur le Poitou-Charentes, la région Rhône-Alpes, et puis du gros temps méditerranéen. Là, ça, c'est déjà le cas et ça sera encore plus le cas, je le disais. Les températures maximales aujourd'hui entre 12 et 17 degrés, c'est un peu comme hier.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Dans le foot, c'était un surhomme, mais dans la vie de tous les jours, il était comme nous, avec ses faiblesses. C'est ça aussi qui a créé un lien si fort avec nous. Naples, c'est Maradona.
Et oui, Naples, c'est Maradona. Toute une ville pleure depuis hier. La star incontestée du foot lui avait apporté 2 titres de champion d'Italie. Une icône, un dieu, le numéro 10 argentin, s'en est allé hier à 60 ans, après une vie de succès, mais aussi d'excès en tout genre. L'actualité ce matin, c'est aussi l'hommage national à Daniel Cordier, l'avant-dernier compagnon de la Libération, ancien secrétaire de Jean Moulin.
Je suis parti parce que je voulais faire la guerre, je voulais tuer des Boches. Les troupes de la France libre, nous étions des enfants.
Et dans de nombreux établissements, on veut à tout prix perpétuer sa mémoire. Nous irons en Moselle. Enfin, les commerçants préparent la réouverture samedi, notamment les libraires, heureux d'un retour en grâce à la faveur du confinement.
Juste après ce journal, les opérateurs peaufinent leurs offres 5G pour Noël. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet et l'édito sport de Virginie Fulpin. Nous reviendrons sur la mort de Diego Maradona. Avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était il y a 19 ans, le 10 novembre 2001, dans la Bombonera, le stade fétiche de Diego Maradona, celui du quartier pauvre de la Boca à Buenos Aires, là où tout a commencé. Le Pibe de Oro, le gamin en or, célébrait son jubilé et s'adressait aux 54 000 spectateurs en délire.
J'espère que cet amour que je ressens ne s'arrêtera jamais. Que cette grande fête ne s'arrêtera jamais. Au nom de ma mère, de mon père, de ma famille et de tous les footballeurs, merci. Le foot est le sport le plus beau et le plus sain, que personne n'en doute. Le foot ne doit pas payer les erreurs de certains. Moi, j'ai fait des erreurs et j'ai payé. Mais le foot, lui, on ne le salit pas.
Un moment de communion entre Diego Maradona et tous ceux qui l'adulaient en Argentine, où la veillée funèbre commence dans 2 heures à Buenos Aires. Le cercueil vient d'arriver au palais présidentiel. Un deuil de 3 jours a été décrété dans le pays.
Et on est aussi en deuil à Naples. Naples où Maradona était un dieu du foot. 2 titres de champion, 1 victoire en coupe de l'UEFA. Une légende napolitaine s'est éteinte et c'est toute la ville qui pleure.
Bonjour Blandine Hugonnet. Vous êtes en direct de Naples où de nombreux Italiens ont bravé hier soir le couvre-feu pour rendre hommage à leur idole.
Et oui, une nuit d'émotion ici à Naples. Je me suis rendue dans les quartiers populaires du centre de la ville où une petite place s'est transformée en sanctuaire. Devant des fresques immenses de Maradona, des jeunes sont venus allumer des fumigènes. Ils ont les larmes aux yeux, tout comme Francesco, on l'écoute.
Je n'arrive pas à y croire, je me souviens encore aller le voir au stade. C'est comme si mon père était mort, je suis détruit.
Voilà les Napolitains sous le choc qui se sont donc retrouvés dans cette sorte de musée de Maradona à ciel ouvert. Certains font le signe de croix devant des photos, des bougies. Malgré ses addictions, malgré ses liens avec la mafia, l'Argentin est devenu une vraie légende napolitaine. Pour Sassa, il a mis le maillot numéro 10 de son idole.
Dans le foot, c'était un surhomme, mais dans la vie de tous les jours, il était comme nous, avec ses faiblesses. C'est ça aussi qui a créé un lien si fort avec nous. Naples, c'est Maradona.
Depuis 30 ans, on voit ici le visage du dieu du foot sur les murs de Naples. Il fait partie de l'ADN de la ville, c'est ce que me raconte Emu Manuela. Son père était le chef des tifosi du Napoli à l'époque.
C'était un saint, il nous a tous donné de la joie ici, on a grandi avec lui, on a Maradona dans le sang. Nous on dit que Naples c'est 3 choses, le Vésuve, le café et Maradona.
À la ville de la Squadra de Maradona qui se réveille donc sous le choc, les Napolitains sont bien décidés à continuer à se réunir pour lui rendre hommage encore ces prochaines heures et ces prochains jours.
Blandine Hugonnet à Napoli pour Europe 1 et le maire de la ville annonce déjà qu'il veut donner le nom de Maradona au stade qui a d'ailleurs été illuminé toute la soirée d'hier.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service des sports d'Europe 1. Ce qui est vraiment marquant dans le parcours de Maradona, c'est que finalement il a vécu toute sa vie sous le regard des médias. Et il n'était pas programmé pour ça.
Ah non, et Maradona en souriait. Je suis né, disait-il, dans une résidence privée, privée d'eau, privée d'électricité, privée de téléphone. C'était à la Villa Fiorito, l'un des bidonvilles les plus misérables de Buenos Aires. Mais dès l'âge de 10 ans, en effet, le petit technicien qui était déjà magique, eh bien, il anime les mi-temps de son club, il jongle sur la pelouse, il s'amuse sous l'œil des caméras qui ne le lâcheront plus jamais. À 12 ans, il confie ses rêves d'ailleurs, face caméra, jouer la Coupe du Monde et la gagner. Cela aurait pu être le cas dès 1978, il n'a que 17 ans. Mais le sélectionneur argentin de l'époque le trouve trop jeune et il devra attendre la fameuse Coupe du Monde de 1986. À Boca Juniors, il faut le savoir, c'est son équipe de cœur, hein. On l'entendait tout à l'heure, mythique maillot bleu et jaune. Il possédait une loge à vie qui avait été offerte par le club. Maradona, cette idole appartenait à l'Argentine. Le footballeur appartenait au monde entier, mais il était encore plus que ça. Il était un dieu au sens propre du terme, parce qu'il faut le savoir, Mathieu, l'église maradonienne existe depuis 1998. Elle revendique une centaine de milliers de fidèles dans des dizaines de pays, surtout hispanophones. Noël, c'est le 29 octobre, son jour de naissance. Pâques, c'est le 22 juin, le jour de ce fameux Argentine-Angleterre, la main de Dieu, la résurrection de l'Argentine. Des mariages maradoniens ont même été célébrés en Amérique latine. À Naples, on trouve encore, vous le savez, en plus des peintures murales, des ex-voto pour se recueillir. Voilà, malgré sa vie de pêcheur, Maradona était aussi une passion au sens religieux du terme.
Voilà, on aura appris grâce à vous qu'il y a une église maradonienne. Merci Jean-François Pérez. Et c'est bien sûr une pluie d'hommages depuis l'annonce du décès de Maradona. Le roi Pelé dit avoir perdu un grand ami un jour, écrit-il. J'espère qu'on pourra jouer au foot au ciel.
On va écouter Alain Giresse, qui avait joué contre Diego Maradona à Bordeaux en 1983. Il salue la mémoire d'un joueur hors norme.
Il nous a inspiré par le plaisir, l'envie de jouer au football, l'envie de voir ce qu'il était capable de faire. Mais on ne peut pas. On ne peut pas s'inspirer d'un joueur comme lui, c'est trop haut, c'est trop...
Oui.
On dit, ouais, jouer comme Maradona, mais pardon, mais les qualités qu'il avait, comment avoir un tel niveau de qualité pour pouvoir s'inspirer? Non, ces gens-là, ces joueurs-là, comme lui, ils ont autre chose qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut qu'admirer.
Alain Giresse, ancien international de l'équipe de France, invité hier soir de Julien Bugier sur Europe 1. Quant à Emmanuel Macron, il rend lui aussi hommage à Maradona, le plus grand footballeur de tous les temps, un danseur en crampons, un artiste, celui qui a fait la révolution sur les terrains.
7h07 sur Europe 1. Il ne reste désormais en France plus qu'un seul compagnon de la libération. Hubert Germain, qui, cet après-midi, assistera à l'hommage national rendu à Daniel Cordier dans la cour des Invalides.
L'ancien résistant, secrétaire de Jean Moulin, décédé à 100 ans, Daniel Cordier, qui inlassablement voulait transmettre l'histoire, son histoire, notamment aux plus jeunes. Arthur Elmbaché, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré en Moselle des collégiens et leurs enseignants. Eux aussi mettent un point d'honneur à faire vivre cette mémoire.
Or, c'est quelque chose de précieux, vous allez l'entendre, se plonger dans l'histoire, les vies de ses compagnons de la libération, leur trajectoire, leur choix. C'est ce qu'a fait Vincent, élève de 3e.
Je pense maintenant, entre collaboration et résistance, on serait dans cette situation où on pense plus rien faire pour être tranquille. Que là, ils ont quand même sauté le pas de sortir de leur zone de confort et ils auraient pu mourir. Quitter sa famille, tout, c'est quand même quelque chose. Hein.
Dans la même classe, au collège Pierre Mesmer de Sarrebourg, Clara, qui a écrit et lu pour l'inauguration d'une stèle, la biographie d'un compagnon de la libération.
J'ai rencontré la fille et la petite fille du monsieur que j'avais présenté, et ça m'a fait plaisir qu'ils soient fiers de leur père et de leur grand-père, quoi. Ouais. Et le fait d'avoir fait ça, bah, ça m'a permis de découvrir ça.
Tu connaissais pas du tout les compagnons de la libération ?
Non, on n'avait jamais entendu parler. C'était une vraie découverte. Mais une bonne découverte.
Moi, ce qui m'a motivée, c'est leur motivation.
Karine Germain est la prof d'histoire géo de ces deux collégiens.
Beaucoup d'élèves voient ça comme quelque chose qui est encore très vivant. Très, très vivant.
Au programme de ce jeudi, dans les classes de cette enseignante, Daniel Cordier, honoré aujourd'hui aux Invalides.
Arthur Elmbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. Daniel Cordier sera inhumé demain au Père Lachaise.
Autre temps fort de ce jeudi, la prise de parole de Jean Castex en fin de matinée. Après les annonces d'Emmanuel Macron que vous avez été près de 30 millions à suivre, place au détail des mesures.
Et notamment sur la question épineuse de la jauge pour les cultes, les responsables religieux catholiques veulent aller au-delà des 30 fidèles à chaque office. Les commerçants se préparent en tout cas à rouvrir après-demain, avec évidemment des mesures sanitaires renforcées, notamment les libraires qui attendent les clients avec impatience. Science préparative suivie par Nicolas Caro.
On est prêt, archi prêt.
À la librairie Lamartine à Paris, Stanislas Rigaud est dans les starting blocks avec le click et collect, les paquets s'amoncellent et la librairie est sans dessus dessous. Il va falloir tout remettre en ordre, mais le libraire est soulagé par la réouverture.
On est très content de rouvrir parce que ça nous permet de plus échanger avec les gens, de plus proposer. Et ensuite, ça risque d'être moins fatigant parce que quand vous avez une grosse librairie et que vous passez votre journée à faire 53 km pour aller chercher les bouquins, revenir, repartir, revenir, repartir, revenir, repartir, je peux vous dire que je me suis couché à 9h du soir tous les soirs de la semaine.
Financièrement, ça va, la librairie n'a pas trop souffert. Surtout, un déclic a eu lieu, un retour en grâce des libraires, et pour longtemps, selon Stanislas Rigaud.
La formidable surprise de cette année, il en faut bien une, hein, c'est effectivement cet engouement. Ça fait des mois qu'on nous remercie, ça fait des mois qu'on est mis en avant, effectivement dans des conditions spéciales, mais il y a une vraie reconnaissance de la spécificité de ce commerce. Les livres ne sont pas un produit comme les autres.
La réouverture s'annonce sportive, les clients devraient affluer à la fois pour les cadeaux de Noël, mais aussi parce que le prix Goncourt sera annoncé lundi, ce qui devrait booster encore un peu plus les ventes.
Nicolas Caro, le Conseil d'État annule deux dispositions très contestées de la réforme de l'assurance chômage, les modalités de calcul de l'allocation et le bonus-malus sur la cotisation chômage de certaines entreprises. Aux États-Unis, Donald Trump accorde une grâce à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, premier de ses proches mis en cause dans le cadre de l'enquête russe. Un abus de pouvoir, selon les démocrates. Et puis, on va finir comme on a commencé avec du foot et ce triste record pour Marseille, 13e défaite en Ligue des Champions hier soir. L'OM battu par Porto 2-0 est éliminé de la compétition.
Merci Hélène Zelani, c'était le journal de 7h. Et tout de suite, un appel, un hommage à Diego Maradona sur Europe 1. J'appelle celui qui a trôné sur le football mondial pendant 17 ans, Sepp Blatter, ancien président de la FIFA. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin pour réagir. Bonjour Sepp Blatter.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci. Le monde du football, lui, est en deuil. Diego Maradona, est-ce qu'il y a une date, une scène, un moment dont vous vous souviendrez personnellement, Sepp Blatter?
C'est le match de la Coupe du Monde qui s'est joué aux États-Unis entre le Nigeria, si je ne me trompe pas, et l'Argentine. Et où, à la fin du match, on a tiré au sort le numéro 10 d'Argentine pour le contrôle de dopage. Et à ce moment-là, le président de la fédération d'Argentine, qui était à côté de moi, a fait le signe de croix et puis il a dit que Dios nos protege. Ça veut dire que Dieu nous protège. Et là, c'était, je dirais, c'était un peu la fin de sa grande carrière de football.
Oui, la fin de Maradona footballeur, mais c'était plus que du football. Maradona, on le comprend bien ce matin, c'était une rock star.
Il était joueur de football, mais il jouait avec sa vie. Il jouait avec sa vie, il jouait avec sa santé, et tout lui tombait dans les bras, madame, on peut dire ça. Et il avait des histoires avec des femmes, avec des épouses même. Il n'avait pas de limite. Et puis quand il s'est mis à la drogue, à ce moment-là, eh ben voilà.
Il restera dans l'histoire aussi pour ce but en demi-finale, 1986, le but de la main, bien sûr, la main de Dieu qu'il vient de retrouver. Je le cite, « Quand j'ai marqué ce but, j'avais l'impression de voler un portefeuille à un Anglais. »
Ce but qui a été validé, peut-être aussi parce qu'on avait l'impression que c'était juste ce qu'il avait fait. Et il n'a jamais dit qu'il a touché de la main, parce qu'il a dit « ce n'est pas moi, Dios ». Il a dit, c'est lui qui a inventé que c'est Dios qui a fait le but, c'est pas lui. C'est une légende et cette légende restera là.
Les héritiers à présent, Sepp Blatter, on pense évidemment à Léo Messi, ont peut-être une légende de ce niveau-là quand on n'a pas gagné la Coupe du Monde.
On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir gagné aussi la Coupe du Monde pour avoir la reconnaissance éternelle. Mais la Coupe du Monde, ce n'est pas si facile de gagner. C'est ça, parce que la Coupe du Monde, c'est une équipe. Et ce n'est pas seulement un individu.
Enfin, Maradona, pour terminer, Sepp Blatter, c'était aussi un homme très politique. On peut parler des Malouines, de Castro, de Chavez. On dit de lui qu'il a changé la géopolitique du football.
Oui, bien sûr. Pour Maradona, il faut maintenant aussi dire, parce qu'on peut dire qu'il était un peu hors la loi. Mais maintenant, si on fait l'inventaire de ce qu'il a fait, et puis de ce qui reste de lui pour le football, eh ben c'est géopolitique, c'est le football et la politique directe, la politique indirecte, et puis surtout son apport sur le plan social, enfin sur le plan des médias. Maradona c'était partout. Oui. Il faut peut-être un peu oublier ses défauts, et puis garder quand même que c'était dans le football. C'était un homme qui avait pas seulement fait du sport, de la culture, mais également du social et de la politique.
Merci. Merci beaucoup, Sepp Blatter. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci à vous. Et puis, Europe 1, bravo. Continuez. À bientôt. Au revoir.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le monde entier regarde donc vers Buenos Aires et Naples. On salue la carrière de Diego Maradona, mort à 60 ans hier. Mais ce matin, on va aussi prendre le temps d'un autre hommage. Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération, décédé vendredi à l'âge de 100 ans. Cérémonie aux Invalides aujourd'hui. Je reçois le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h17 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. La bataille de la 5G est vraiment lancée. Les opérateurs sont sur le pied de guerre et ils peaufinent leurs offres pour Noël.
Oui, bien qu'il y ait encore peu d'endroits où on capte la 4G, mais la 5G, pardon, mais c'est une
c'est
belle...
C'est un joli lapsus.
La 5G, c'est une belle bataille rangée qui s'engage entre Orange, SFR, Bouygues et Free. J'allais presque dire rue par rue. SFR a ouvert le bal le premier avec une offre couvrant la moitié des rues de Nice, non sans quelques petits bugs de démarrage, c'est la vie. Bouygues se lance mardi, Orange jeudi prochain, à plus grande échelle, en couvrant 15 villes françaises à 80%. Free, pour le moment, n'a pas encore dévoilé ses plans, mais tous, en tout cas, s'observent, guettent ce que font les autres, se tiennent prêts à ajuster leurs offres, vive la concurrence.
Alors, il y a quand même un grain de sable, hein. C'est l'attitude de certains élus locaux à l'égard de la 5G.
Oui, par exemple, la maire de Lille, Martine Aubry, vient de faire voter un moratoire alors qu'il y a 2 ans, elle se félicitait d'être une des 2 premières villes françaises à expérimenter la 5G et voulait faire de sa ville, je cite, une vitrine nationale. Les Lillois apprécieront la volte-face. Pas de moratoire, en revanche, dans la capitale, Anne Hidalgo l'a assuré. assurée. Alors, le petit théâtre politique, parfois pitoyable chez certains élus écolos, les mêmes qui, il y a quelques années, on l'a oublié, voulaient interdire le Wi-Fi. Ce petit théâtre ne va pas arrêter la 5G, mais il peut la freiner. D'ailleurs, Orange dit qu'il ne lancera pas la 5G dans les villes qui ont voté un moratoire.
Les opérateurs ont payé 2,8 milliards pour les fréquences 5G. Ils ne vont pas non plus renoncer.
Et à travers les nouvelles offres qui arrivent, ils visent une clientèle haut de gamme, prête à payer un peu plus pour passer à la 5G, et donc permettre de financer ces lourds investissements. En moyenne, les forfaits de SFR, Bouygues et Orange seront 5 euros plus chers que les forfaits 4G, avec des engagements de 12 mois. La 5G va permettre de désengorger les réseaux, d'offrir un meilleur service. Dans un pays libre et ouvert comme la France, chacun devrait être totalement libre de s'y abonner, que cela plaise ou non au maire de la ville où on habite.
Merci Nicolas Barré, il est 7h19.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Avec vous aussi, nous allons revenir sur la mort de Diego Maradona.
Chiché.
L'Argentine est sous le choc et décrète 3 jours de deuil national.
Alors 3 jours de deuil national, c'est pas assez. Le corps de Maradona est donc exposé à la Casa Rosada, le palais national, jusqu'à dimanche. Tout le pays est convoqué à la veillée funèbre. Et le président péroniste Alberto Fernandez l'accueille et se recueille ce matin. Il dit « Tu nous as emmenés sur le toit du monde, tu vas nous marquer toute notre vie ». À ce niveau de ferveur, on cherche en vain un équivalent. Les Français ont pleuré de Johnny Hallyday, Paris tout entier a suivi les obsèques de Victor Hugo, mais personne n'aurait eu l'idée d'exposer leur cercueil à l'Élysée.
Buenos Aires pleure davantage qu'un champion, une incarnation.
Sur un océan de larmes, s'envale l'icône, Aldiès, le demi-dieu, les Argentins le pleurent comme les peuples pleurent leur chef, avec des mots qui relèvent du sacré. S'il pouvait, il mettrait Maradona embaumé dans un mausolée, et cela ne le dépayserait pas trop, lui qui a aimé les dictateurs communistes, Fidel Castro, Hugo Chavez, Nicolas Maduro, Muammar Kadhafi, et même Alexandre Loukachenko. Il portait le visage tatoué de Fidel Castro sur le mollet gauche, et celui de Che Guevara sur l'épaule droite. Comme ça, même totalement défoncé, il ne risquait pas de s'égarer. En Argentine, la politique est si compliquée. On peut être péroniste d'extrême gauche ou d'extrême droite, et même du centre. Maradona l'était extrêmement. Le héros du bidonville dressé contre les gringos, ceux du Nord. Comme ça, il est devenu le roi de Naples face aux grands clubs Milan, Turin, Rome. Comme ça, il a vengé les Argentins en battant l'Angleterre dans la fameuse finale de 86, lavant l'humiliation toute récente des Malouines. La main de Dieu a fait oublier les militaires argentins, les mains sur la tête, le nez dans la boue, mis en joue par les soldats de Sa Majesté.
Merci Vincent Hervouet, je le disais, 4 minutes après la main de Dieu, hein, il a dribblé toute l'Angleterre, la moitié du terrain, pour marquer un deuxième but, un vrai celui-là. Et Diego Maradona, cette icône nationale, a-t-il été tenté, lui, par la politique? Écoutez sa réponse dans le documentaire que lui a consacré le réalisateur Emir Kusturica.
Dans mon pays, les hommes politiques sont riches, mais ils ne donnent rien aux gens. Ils m'ont souvent proposé des postes, mais j'ai refusé, parce que je ne suis pas là pour voler les gens. J'ai rencontré des politiques, mais ils ne voulaient plus me voir après, parce que je n'achetais pas mes mots.
Europe 1, Mathieu Béliard. Vous restez bien sur Europe 1, hommage toujours à Diego Maradona, l'édito sport dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Diego Maradona est mort hier à l'âge de 60 ans. Pour vous Virginie, c'est une part du football que l'Argentin emporte avec lui, un football qu'on ne reverra plus.
Diego Maradona était le football, il le sentait, il transpirait le football, il l'inventait, il réinventait aussi au gré de ses feintes et de sa conduite de balle. Sur le terrain, c'est lui qui décidait où il envoyait ses adversaires, un génie de l'élimination. Comme un dieu du ballon descendu jouer parmi les hommes, tant et si bien qu'on a fini par le croire immortel, hein, à force de se régaler encore et toujours devant les vidéos de ses plus belles actions. On dit souvent d'un grand joueur qu'il a marqué une génération, mais Diego Maradona c'est bien plus que ça, il a marqué toutes les générations. Les milliers de petits Diego qui courent dans les rues de Naples, balle au pied, aujourd'hui aujourd'hui encore peuvent en témoigner. Hein. La passion de Maradona, c'est un héritage. Ça n'est pas en disséquant des feuilles de stats, comme on aime tant le faire dans le football d'aujourd'hui, qu'on peut appréhender Diego Maradona. Quand un joueur enchaîne la main de Dieu et le but du siècle dans un même match, hein, ce quart de finale de la Coupe du Monde 86...
4 minutes d'écart. 4 minutes d'écart entre ces deux buts.
C'est complètement fou, c'est ce mélange des genres. L'attraction des contraires, si complexe à apprécier, qui donne une place à part à Diego Maradona dans le football. Une place qu'aucun autre joueur ne pourra jamais lui disputer. Hein, entre poésie, génie et roublardise, c'est aussi à ce football-là qu'on dit adieu depuis hier.
On a aussi dit adieu au dernier des rebelles.
On ne peut pas se souvenir de Diego Maradona que par son jeu, si génial soit-il. C'est l'homme qui était hors norme, pas juste le joueur. Diego Maradona s'est mêlé de politique, de religion, il a voulu porter la cause du peuple à chaque moment de sa vie. Et c'est aussi comme ça qu'il a créé sa légende, qu'il a redessiné les frontières de son sport et qu'il est devenu un mythe. Un mythe avec sa face obscure, bien sûr. Hein. Ses relations avec la Camorra, ses addictions, tous ses côtés sombres ont été mis en lumière, une lumière crue. Diego Maradona, on l'adorait ou on le haïssait. On pouvait même ressentir les deux sentiments opposés pour lui et tout ce qu'il représentait. On oscillait en permanence entre le feu et la glace. Et c'est à cette complexité qu'on renonce aujourd'hui dans un football où la tiédeur a remplacé les brûlures. On ne reverra pas de personnages comme Diego Maradona. Le formatage ne permet plus ses excès, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Tour à tour, dieu du foot, homme imparfait, héros des foules et rebelle pour toujours. Diego Maradona n'était donc pas immortel et il emporte avec lui l'idée d'un football épique et romanesque auquel on a du mal à dire adieu.
Chanson argentine, hommage à Diego Maradona, parmi d'autres. Hein. Il y en a tellement, on chante à Buenos Aires, on chante à Naples cette nuit, et on lui rend hommage ce matin sur Europe 1. Merci Virginie Fulpin. Il est 7h27 sur Europe 1. Et comme tous les jours, nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, une question inutile, donc totalement essentielle. Pourquoi appelle-t-on les cochons d'Inde les cochons d'Inde ?
Alors, c'est vrai que je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui dans la matinale, donc c'est bien que vous le fassiez, mon cher Stéphane.
Oui, toujours prêt à rendre service. Bon, le cochon d'Inde n'est pas un cochon et il ne vient pas d'Inde. Nul besoin d'être un spécialiste animalier pour savoir que le cochon est un mammifère omnivore, alors que nos cochons d'Inde adorés sont beaucoup plus petits et totalement herbivores. En 1492, quand Christophe Colomb arrive en Amérique, on le sait tous, il est intimement persuadé de se trouver en Inde. Dès lors, en rencontrant ce qu'il entend comme des couinements ressemblant à des cochons, il leur donne le nom de cochons d'Inde. Il est d'ailleurs vraisemblable que les premières rencontres aient eu lieu entre des explorateurs espagnols pendant la découverte du Pérou et du Chili. À l'origine, les cochons d'Inde ont été domestiqués vers 500 ans avant Jésus-Christ par les Amérindiens, essentiellement pour se nourrir. Ce sont les navires anglais et hollandais qui ont ramené ces petits compagnons sur notre continent européen. Ils sont non seulement devenus des animaux de compagnie très affectueux, Élisabeth Ière d'Angleterre en avait dans sa ménagerie royale, et surtout, ils ont été très utiles à l'humanité, car différentes expériences médicales sur eux, je ne suis pas toujours pour, ont permis d'établir l'importance de la vitamine sur nos organismes, et ils sont à l'origine de la découverte d'une bactérie, la tuberculose. Donc, définitivement, merci aux cochons d'Inde.
Mais je ne connais pas de recette de civet de cochon d'Inde, mais on aura l'occasion d'en reparler une autre fois. On vous retrouve à 16h, Stéphane.
Oui, aujourd'hui, on s'invite dans les chambres à coucher pour découvrir de drôles de nuits de noces. Celle de Philippe Auguste et d'Ingeburge de Danemark, tellement drôle que le roi l'a répudiée dès le lendemain de leur mariage. Le duc et la duchesse de Berry, qui se sont mariés à l'Élysée devant toute la famille, et le prince Charles et Lady Diana pour une nuit qui ne s'est pas forcément aussi bien passée qu'espérée. Je n'étais pas pour, mais vous l'imaginez bien, c'est Mathieu Noël qui a insisté. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et des températures qui vont vraiment baisser la semaine prochaine, ce sera un vrai temps de cochon. Vous allez voir, c'est des températures qui vont atteindre les moins 5, moins 6 degrés sur une bonne partie de la France. Et avec disons, souvent un ciel dégagé, on ne va pas parler de mauvais temps. Aujourd'hui, le mauvais temps, le gros temps, c'est celui qui se concentre sur le littoral méditerranéen, où nous aurons à la fois ce jeudi, puis vendredi, puis samedi, puis dimanche, puis lundi, puis mardi, des pluies et du vent. Et ces pluies seront très forte au point que probablement des vigilances vont peut-être émettre dans ce secteur. Donc pensez-y si vous vous déplacez. Pour le reste, ce sont des brumes qui vont se disperser et les éclaircies qui seront là sur la région Rhône-Alpes, le Massif central, la Champagne-Ardenne, le centre. Les éclaircies difficiles hein, sur Paris, sur les Pays de la Loire, la Bretagne et la Picardie. Mais dans l'ensemble, partout ailleurs, c'est un temps sec avec des températures de 13 à 15 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Il a été une source d'inspiration pour tous les jeunes, pour tous les millions de jeunes à travers le monde. Pour moi.
L'émotion et l'hommage de Zidane à Diego Maradona, disparu hier à 60 ans. C'est toute la planète foot qui pleure aujourd'hui la mort d'une légende à la vie mouvementée. On en parle à la fin de ce journal. Avant cela, l'ouverture des stations de ski avant les fêtes, toujours en suspens. Mais les professionnels s'inquiètent de la fuite des touristes vers les stations suisses. Et puis un collectif de citoyens pour déployer les futurs vaccins anti-Covid. Objectif, impliquer davantage les Français.
Juste après ce journal, aux Invalides, l'hommage de la nation à Daniel Cordier, une des dernières figures de la résistance. On va en parler avec le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, invité du tête-à-tête Europe Matin. La difficile question de l'isolement des malades, dilemme pour l'exécutif, l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une fois n'est pas coutume, Emmanuel Macron parle, Jean Castex détaille. Le Premier ministre s'exprimera en fin de matinée à 11h pour éclaircir les mesures d'assouplissement du déconfinement annoncées mardi par le chef de l'État. Au programme notamment la réouverture des agences immobilières et des auto-écoles ce week-end ou encore la jauge de fidèles lors des messes.
Alors il y a une question en revanche qui ne sera pas tranchée, c'est celle de l'ouverture des stations de ski avant les fêtes. Les professionnels de la montagne n'ont pas renoncé à convaincre le gouvernement de faire marche arrière.
Oui, au-delà de leur détermination. Il y a la crainte de voir les skieurs traverser la frontière pour profiter du versant suisse. À Châtel, en Haute-Savoie, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Châtel, c'est le cœur des Portes du Soleil, l'un des plus grands domaines skiables du monde avec ses 650 km de pistes, à cheval sur la France et la Suisse. La Suisse qui, elle, n'a pas décidé de fermer ses stations. Concurrence déloyale, peste Jackson, un saisonnier qui vend des crêpes et des choux roses dans son camion.
Énormément d'injustice, je trouve. C'est assez rageant de perdre notre clientèle qui va monter à 5 km, dépenser son argent, quoi. Tout le monde va partir là-bas, c'est beaucoup de manque à gagner pour la France.
Tout ça n'est ni très normal ni très juste, estime aussi Nicolas Rubin, le maire de Châtel. Et cela va provoquer un drôle de micmac sur les pistes le 20 décembre prochain, jour de l'ouverture des 4 stations suisses des Portes du Soleil.
Ça énerve un peu parce que à quelques mètres l'un de l'autre, les règles sont complètement différentes. Je ne vois pas comment sur les points hauts, on puisse empêcher les gens de descendre de l'autre côté de la montagne sans mettre un agent de sécurité tous les 10 mètres. Il y a de l'injustice. Je crois que ça mérite un peu plus de finesse dans la décision parce qu'une règle nationale ne peut pas forcément s'adapter partout. Il faut avoir un regard particulier sur des situations particulières.
Le maire réclame donc une concertation entre les deux pays, pas gagné. Hier, le président du canton voisin du Valais a confirmé que la fermeture n'était en Suisse pas une option. Châtel, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et puis l'Allemagne, de son côté, appelle l'Union européenne à interdire les séjours de ski d'ici le 10 janvier pour éviter une nouvelle flambée de l'épidémie.
La vaccination contre le Covid ne sera pas obligatoire, on le sait. Emmanuel Macron l'a affirmé lors de son allocution. Si le chef de l'État a précisé qu'un comité scientifique serait chargé du déploiement des futurs vaccins, un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour impliquer la population.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Alors à quoi va ressembler ce collectif citoyen ?
C'est encore en chantier, mais ce pourrait être aussi bien 150 citoyens tirés au sort sur le modèle de la Convention pour le climat qu'un panel plus petit de 20 ou 30 personnes, comme l'a déjà organisé le comité d'éthique sur la PMA par exemple. L'idée, c'est en tout cas de créer un lieu de débat dans lequel les interrogations des citoyens sur les vaccins puissent clairement s'exprimer, car chez nous, la défiance est grande. France Lair fait partie de ceux qui réclamaient ce dispositif depuis plusieurs mois. Elle est épidémiologiste.
Entendre les questions légitimes que se posent les citoyens et qui sont très diverses, c'est extrêmement important. Il y a de nombreux articles scientifiques à l'heure actuelle qui sortent sur la vaccination et qui disent que la façon dont on déploie un programme de vaccination est aussi importante que l'efficacité de la vaccination elle-même.
Et comment faire, Anne, pour que ça fonctionne ?
Pour que ce collectif citoyen fonctionne, il faut qu'il y ait de vrais débats. Donc ce n'est pas tant le nombre de participants qui compte que leur représentativité, explique Daniel Benamouzig, sociologue et membre du Conseil scientifique. Il faudra une grande diversité de points de vue, donc des citoyens de tous âges, de toute classe sociale, de toute région. Et une chose est sûre, l'organisation va devoir se faire très vite, idéalement avant les premières vaccinations en janvier.
Explication signée Anne Le Gall du service Société d'Europe 1. Une énième séance de négociations ce matin entre les partenaires sociaux pour arriver à trouver enfin un consensus sur le projet d'accord national sur le télétravail. Pour l'instant, la CGT rejette la dernière version du texte. De bonnes nouvelles sur le front de l'emploi avec cette aide exceptionnelle d'abord pour les travailleurs précaires annoncée par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Aide qui doit concerner environ 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes. Et puis, c'est une information Europe 1. Veolia, spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, est à la recherche de plus de 1000 postes en CDI à pourvoir dès que possible. L'hommage national à Daniel Cordier cet après-midi aux Invalides en présence d'Emmanuel Macron. L'ancien résistant est mort vendredi dernier à l'âge de 100 ans.
Lui a droit à l'Élysée argentin pour recevoir les honneurs. Le corps de Diego Maradona, mort hier à 60 ans, est arrivé ce matin dans le palais présidentiel de Buenos Aires. Il y sera exposé toute la journée. Des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant le bâtiment pour lui rendre hommage.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sophie.
Après l'annonce de la mort de cette légende du football, les réactions se multiplient, sportives, politiques. C'est le monde entier qui pleure la disparition d'un véritable symbole.
J'espère qu'un jour, nous pourrons jouer ensemble au ciel les mots touchants du Brésilien Pelé. Il nous laisse, mais ne s'en va pas, Diego est éternel. Ceux de l'autre idole argentine, Lionel Messi. Et puis il y a l'héritage Maradona mis en mots par un autre génie numéro 10 dans le dos, Zinedine Zidane.
Moi j'ai un souvenir de 86 et j'ai eu la chance en fait de pouvoir lui dire par la suite, puisque je l'ai rencontré, de lui dire qu'il a été une source d'inspiration pour tous les jeunes, pour tous les millions de jeunes à travers le monde. Et pour moi.
Un héritage sans limite pour un magicien inégalable, écrit Cristiano Ronaldo. Et puis il y a ceux qui un jour ont joué contre lui et qui racontent. Le bleu Manuel Amoros, France-Argentine, mars 86, il décrit un Maradona adulé de ses pairs.
C'est vrai qu'on essayait, moi qui parlais un peu espagnol, on pouvait me donner son maillot à la fin pour échanger. Il me dit non, je l'ai déjà promis à 5 ou 6 personnes.
Et puis il y a Diego, le Che du sport, curseur politique à gauche, et l'hommage de Nicolas Maduro qui déplore le départ d'un frère irrévérencieux du Venezuela. Au Brésil, l'ancien président Lula le remercie pour sa solidarité avec les causes populaires. Et puis il y a Peter Shilton, le gardien anglais qui a encaissé la Mano de Dios en 86 et le slalom mémorable de Maradona. Alors, il n'a toujours pas digéré. Jamais Maradona ne s'est excusé d'avoir marqué de la main, mais il était sans doute le plus grand joueur que j'ai jamais affronté.
Merci beaucoup, Jérôme Lacroix.
Jamais Maradona n'a reconnu avoir marqué de la main. C'est Dieu, a-t-il dit.
C'était la main
c'était
de Dieu.
Je ne peux pas dire. Écoutez, comment s'appelle ce gardien anglais?
Peter Shilton.
C'est quand même les deux buts les plus célèbres de l'histoire du football. Il faut quand même saluer ce gardien ce matin, Peter Shilton. Merci Jérôme Lacroix, merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30. Et à présent, dans cet hommage à Maradona, c'est presque un cadeau pour les plus fidèles auditeurs d'Europe 1. Nous allons retrouver une voix que vous connaissez bien, spécialiste, s'il en est, du football au service des sports d'Europe 1, dirigé à l'époque par Eugène Saccomanno. Bonjour Pierre-Louis Basse.
Bonjour Mathieu.
En 1990, Eugène Saccomanno vous envoie à Naples pour Europe 1 pour rencontrer Diego Maradona. Racontez-nous.
Il est annoncé sur toute la une de l'équipe, il est annoncé à Marseille. Vous pensez bien que c'est une folie. Alors Sacco me dit file à Naples et je m'en vais à Naples. Il n'était pas rentré de vacances, tout le monde l'attendait et j'ai eu la chance, il se trouve que je me suis trouvé non pas à l'entraînement, car il y allait assez peu aux entraînements. Et il se contentait des matchs ou des pizzas après les matchs. Et je me suis trouvé dans sa maison, la Villa Paradiso, sur la colline Paradiso, avec un coup de chance. Et je me suis retrouvé de l'autre côté du garage. J'ai eu le temps de lui demander un mot. Et il m'a dit vive tapis en italien. Il m'a dit Seigneur tapis, et je viens à Marseille. J'arrive à Marseille. Bon. Il n'est jamais venu à Marseille.
Vous avez pu le rencontrer plus tard, à nouveau, hein, dans les années 90, pour une plus longue interview. Que retenez-vous, Pierre-Louis Basse, de ces échanges que vous avez eu la chance d'avoir avec Diego Maradona?
D'abord, la possibilité de lui poser toutes les questions que je souhaitais lui poser. Il parlait sans phare de la drogue. Et j'ai compris ce jour-là, en faisant cette longue interview qui a duré assez longtemps, Diego Maradona, en définitive, a été ce que des Jesse Owens dans d'autres sports, ou même Pelé, ils s'en moquaient, n'ont pas réussi à être. C'est-à-dire, ils sont devenus des burgers manipulés par les grandes instances, pas Maradona. Pourquoi nous aimons le football? Parce que c'est notre enfance. Et notre enfance, qu'elle soit difficile ou belle, on passe tout de même notre vie à la regretter. Et le football, c'est l'enfance. Et la sienne était terrible dans ce quartier de Buenos Aires. Mais il y avait ce ballon qui l'a sorti de ce quartier. Et finalement, quand on est enfant, on met toujours les doigts dans le pot de confiture et la maman nous gronde. Lui, il a passé sa vie à continuer à mettre les doigts dans le pot de confiture et ça gênait beaucoup de monde. Il représentait les plus démunis, les plus pauvres. Il est vraiment et il restera aussi pour ces raisons-là, parce qu'il les a, parce que les laissés pour compte, parce que les délaissés, il ne les a jamais laissés tomber. Voilà ce que j'en retiens et ce que je retiens de cet entretien que j'avais eu avec lui.
Merci beaucoup, Pierre-Louis Basse.
Merci à vous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans le journal de 8h tout à l'heure, un autre journaliste, Didier Roustan, en direct. Il lançait dans les années 90 un syndicat de joueurs avec Eric Cantona et Diego Maradona. Mais tout de suite, un autre hommage. Et c'est à la une ce matin, bien sûr. Cérémonie aux Invalides pour Daniel Cordier, avant-dernier compagnon de la Libération. Il est mort à 100 ans vendredi dernier. Le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération, invité du tête-à-tête Europe Matin. Dans une minute, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h42 sur Europe 1. C'est une autre disparition, mais nous voulions prendre ce temps ce matin. Ancien résistant, ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier est mort vendredi. Il avait 100 ans. Un hommage national présidé aujourd'hui par Emmanuel Macron aux Invalides et ce matin un invité exceptionnel, le général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Général Christian Baptiste, bonjour.
Bonjour monsieur.
C'était l'avant-dernier compagnon de la résistance. Parti parmi les derniers, arrivé parmi les premiers. Daniel Cordier est l'un des tout premiers Français à 19 ans à rejoindre les forces françaises libres à Londres. Vous, vous l'avez beaucoup fréquenté. Qui était Daniel Cordier ?
Moi, je l'ai fréquenté dans la dernière partie de sa vie, où c'était quelqu'un de âgé, puisqu'il a eu 100 ans le 10 août de cette année. C'était quelqu'un d'apaisé. Nous avions un rite d'ailleurs, à chaque fois que je lui téléphonais, c'est-à-dire chaque semaine. Un jour, il m'avait dit « j'ai décidé d'être heureux et je suis maintenant heureux ». Et à chaque fois que je le quittais au téléphone, notre phrase était « Daniel, est-ce que vous êtes toujours heureux ?» Il répondait « oui mon général, je suis heureux » et on se quittait. Il a eu trois vies. Il a eu la vie de résistant entre 40 et 46. Et tout le monde sait qu'il fut l'adjoint de Jean Moulin. Et ensuite, il a eu une vie dans l'art moderne et contemporain. Et puis après, une troisième vie comme historien, parti de la base, mais reconnu maintenant par les universitaires comme un grand historien. C'était un homme éclectique, c'était un homme libre surtout. Il était libre de ses propos, libre de ses amis, libre de ses amours, libre de faire ce qu'il voulait de sa vie.
Et quand on a été résistant, quand on a œuvré à la libération, libre, on le reste toute sa vie ?
Oui, c'est ce que j'ai fréquenté beaucoup de compagnons de la libération ces dernières années. On sent que ce qu'ils ont vécu entre 18 et 23 ans, pour la plupart, les a marqués à vie, et qu'après, ils ont abordé le reste de leur vie armés de ces convictions.
Vous êtes délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération. C'est vous qui avez dû appeler Hubert Germain, 100 ans aujourd'hui, qui est le dernier compagnon de la Libération. C'est vous qui lui avez téléphoné ?
Oui, alors je ne l'ai pas téléphoné. Dès que la famille m'a informé du départ de notre ami Daniel, la première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est de faire remonter l'information au président de la République. Et puis, j'ai tout de suite été voir Hubert Germain, puisque la chancellerie de l'Ordre est aux Invalides et que Hubert Germain prend sa retraite à l'Institution nationale des Invalides. J'ai voulu tout de suite y aller pour pas qu'il la prenne par la bande. Hubert Germain, lui aussi, a 100 ans. Il a eu 100 ans 4 jours avant Daniel Cordier. Quand je suis entré dans sa chambre, il a su qu'il y avait quelque chose, que d'habitude, je vais le voir une ou deux fois par semaine. Je prends rendez-vous pour ne pas le déranger. Il m'a regardé et il m'a tendu ses deux mains. Je lui ai tenu les deux mains et je lui ai dit « Oui, Monsieur Germain, Daniel nous a quittés ». Là, si vous voulez, j'ai vécu un moment, et ça a été très émouvant pour lui, mais il m'a fait partager son émotion. Il a fermé les yeux un long moment, et quand il les a réouverts, toujours en tenant mes mains, il m'a dit « Mon général, je continuerai à vous accompagner jusqu'au bout, je ferai mon devoir jusqu'au bout ». Ce qui m'a frappé, c'est que tous les compagnons avec qui j'ai parlé, manifestement, ils sont rentrés dans cette aventure en 40, ils ont été faits 1038 sur 40 millions de Français à l'époque, simplement 1038 ont été faits chevaliers de cette chevalerie, et jusqu'au bout, ils m'ont toujours dit, c'est jusqu'au bout que nous sommes compagnons, c'est jusqu'au bout que nous ferons notre devoir.
D'ailleurs, dans l'Ordre de la Libération, il ne comporte qu'un seul titre, celui de compagnon de la Libération. Il n'y a pas de rang, il y a un insigne unique. Pourquoi ? Est-ce que c'est volontaire, cette égalité sous ce titre ?
Ça a été créé comme ça, volontairement, par le général. C'est un ordre égalitaire, c'est une chevalerie. Et d'ailleurs, le terme de compagnon vient du terme latin cumpanere, celui avec qui on partage le pain à la même table. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire beaucoup de choses. Je voudrais un instant que l'on quitte Daniel Cordier et Hubert Germain, les compagnons, et que l'on parle de cette cérémonie aujourd'hui. À quoi ça sert, une cérémonie d'hommage comme celle qui est organisée aux Invalides ?
Alors évidemment, on pourrait dire, et je l'entends parfois, encore une de plus, la mémoire, ainsi de suite. C'est vrai que parfois, le devoir de mémoire, comme on dit, est récité comme un mantra dont on a oublié le sens. En fait, la mémoire a deux aspects, qui sont d'ailleurs complémentaires. Le premier aspect, j'appelle Elie Wiesel, qui disait « le bourreau tue toujours deux fois, virgule, la deuxième fois par l'oubli ». Eh bien, nous n'avons pas le droit d'oublier ceux qui se sont levés et se sont sacrifiés et ont souffert dans leur jeunesse. Alors, on appelle ça le devoir de mémoire, moi j'appelle ça plutôt une exigence de mémoire. Et une société, c'est une exigence morale. Et une société qui a de la morale, c'est une société où fait bon vivre. Quand on perd une morale collective, ça devient un enfer, une société. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect de la mémoire, c'est l'utilité de la mémoire, ce qu'elle nous apporte. Et là, j'appelle Alexis de Tocqueville qui disait « En démocratie, chaque génération est un peuple nouveau ». Ce qui veut dire que les leçons chèrement apprises par une génération ne servent pas à la suivante, sauf si. Sauf si les tempes grises ont la volonté de transmettre et si les jeunes, les tempes fournies ont la volonté d'écouter. Parce que si vous voulez, s'il n'y a pas ça, si ce que nous avons pu en commun, ce n'est plus que chacun nos individualismes, nos sociétés se déliteront.
Vous serez aux Invalides aujourd'hui, général Christian Baptiste. Votre défi, il ne reste plus qu'un seul compagnon. Comment on fait vivre cette mémoire, et vous venez de nous dire pourquoi, sans ces témoins directs?
Alors, si vous voulez, c'est le président de la République d'ailleurs qui souvent répétait dans ses discours que l'esprit d'une nation se nourrit de vie exemplaire. Or, il n'y a pas plus exemplaire dans notre histoire récente que l'engagement des compagnons de la libération et des médaillés de la Résistance française. Pourquoi je dis les médaillés de la Résistance française? Parce que le général de Gaulle, entre 40 et 45, va créer deux distinctions, et seulement deux distinctions, en novembre 40, la Croix de la Libération, et en janvier 43, la médaille de la Résistance française. Eh bien, ça l'a permis. Alors, si je vous dis que les compagnons de la Libération sont issus de tous les départements français, sauf un, que les médaillés de la Résistance française irriguent le territoire national, si je vous dis ça, c'est pour vous dire que partout, finalement, où je vais, je passe mon temps à me déplacer, il y a des héros locaux. Il suffit simplement d'aller les réveiller. Et l'histoire doit être incarnée. Elle ne doit pas être quelque chose un peu barbante qu'on assène, incarnée. Et si vous voulez, l'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Et dès le moment où vous avez un héros local proche de chez vous, que vous pouvez étudier et vous pouvez essayer de comprendre pourquoi à un moment donné il a pensé que son sort était moins important que celui de la patrie, à ce moment-là, vous commencez à cheminer sur ce que c'est que la citoyenneté.
Merci beaucoup, général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre des Compagnons de la Libération. Nous avions fait ce choix, évidemment, à la une, Diego Maradona ce matin, mais nous avons fait ce choix, rendre hommage aussi à Daniel Cordier, cette cérémonie aux Invalides aujourd'hui. C'était important d'en parler. Christian Baptiste, merci beaucoup. 7h50 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique de Nicolas Bétou dans une minute, avant de retrouver Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Et bonjour Mathieu.
L'édito politique avec vous Nicolas. En s'adressant aux Français, Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait que l'isolement des malades du Covid soit plus contraignant. Et c'est un débat très compliqué.
Oui, et je dirais même impossible. Non pas qu'on ne puisse pas en parler et s'échanger des arguments, mais c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de bonnes solutions. L'idée, bien sûr, est très simple. Toute personne testée positive doit s'isoler, se confiner strictement pour casser la chaîne de transmission du virus. Bon, aujourd'hui, cette règle est basée sur la bonne volonté et ça ne fonctionne pas. Il faut donc, si on veut stopper rapidement le processus de contamination, rendre l'isolement, justement, plus contraignant.
Bon, ça c'est la théorie, mais on imagine bien qu'en pratique, ça doit être plus compliqué.
Absolument. Par exemple, pour les gens qui ne peuvent pas être isolés à leur domicile, logement trop petit ou pas de pièces disponibles pour s'enfermer, il y a aussi les personnes qui sont isolées, justement, qui sont seules et qui ne pourraient plus se ravitailler. Alors, une proposition de loi opportunément déposée par un député du groupe centriste Agir Ensemble a recensé tous ces cas et elle a imaginé une solution à chaque problème. Chambre d'hôtel, accompagnant, référent sécu à domicile, indemnisation journalière, un vrai kit du parfait état nounou. Le génie français pour mettre des filets de sécurité de tous les côtés, quoi qu'il en coûte.
Mais au fond, si ça marche, si ça permet d'imposer un isolement.
Ah ben ce serait parfait, sauf que ces solutions terre à terre sont peu de choses à côté d'un intérêt bien supérieur, un concept heureusement indépassable en France, les libertés publiques. Enfermer quelqu'un parce qu'il est cas contact ou malade, en l'état actuel du droit, c'est impossible. Et donc à peine avait-elle été formulée que la proposition du chef de l'État provoquait un vif débat. Emmanuel Macron l'avait d'ailleurs prévu, mais c'est sûr qu'en ce moment, offrir à ses adversaires politiques une nouvelle occasion de dénoncer un État liberticide, ben ça ne va pas de soi.
Est-ce que ça n'est pas un peu le même débat que celui qu'on a connu autour de l'application Stop Covid, qui est devenu tous anti-Covid, oui. Et son côté optionnel
si,
ou pas ?
Si, absolument. Et la Commission informatique et liberté avait plusieurs fois refusé qu'elle soit obligatoire, cette appli. Alors voilà, nos lois et tous les gardiens du temple dont la République s'est dotée protègent nos libertés, c'est leur rôle. Et les Français, eux, sont hostiles à tout ce qui est obligatoire, c'est leur nature. On le voit en ce moment d'ailleurs sur le problème du vaccin. Mais imaginons un instant que l'appli devienne obligatoire pour sortir dans la rue et que tout le monde l'active. Celui qui est positif, ben, il clignotera vite comme un sapin de Noël et confronté au regard soupçonneux des autres, il se confinera beaucoup plus volontiers. Voici l'exemple asiatique. On crée une sorte de bulle numérique, une frontière. Alors bien sûr, ça amène à bousculer la CNIL, mais on s'évite le confinement contraignant. Et en temps de guerre, ben, il faut parfois savoir choisir, renoncer provisoirement à une protection pour sauver une liberté plus fondamentale encore.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Il est 7h55. Et à 7h55, comme tous les matins, Nicolas Canteloup conseille l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Gérard Larcher, président du Sénat. Et Jean-Michel Apathy voulait lui dire un petit mot.
Bonjour à mon collègue rouleur de verre Mathieu Béliard, bonjour à Laurent Cabrol, bonjour à Nicolas Bétou. Donc oui, tout à l'heure vous recevrez Gérard Larcher dans votre matinale spéciale Maradona. Et c'est cohérent, il faut dire que ces derniers temps, quand on les regardait, on pouvait les confondre tous les deux. Bref, Gérard Larcher est pour, vous l'avez dit, la vaccination obligatoire. Et c'est vrai que quand on voit la composition du Sénat, il y a un côté population à risque. Si, quand on sent que le sénateur est plus préoccupé par la réouverture des restaurants que par celle des salles de sport. La sédentarité, l'excès de poids, c'est pas bon. On comprend que Gérard Larcher veuille impérativement les vacciner. Parce que s'il y a une troisième vague, le Sénat, il en restera rien.
Pardonnez-moi, bonjour. Docteur de Sublazy, bonjour à tout le bloc. Écoutez, oui, Gérard Larcher veut vacciner tout le monde. C'est son côté vétérinaire. On vaccine systématiquement. Mais moi, je vais vous dire une chose, monsieur Béliard, monsieur Bétou. J'ai une divergence avec lui. Je pense que les gens, c'est très différent des chats et des chiens. N'est-ce pas, monsieur Bétou ? Regardez, ouvrez les yeux, monsieur Béliard. Il n'a rien à voir avec un caniche. Si, peut-être la coiffure.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille l'invité politique à sa manière tous les jours avant 8h. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Merci Nicolas. Et à tout à l'heure, 8h45, pour la revue de presque. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et pour faire un lien avec l'actualité, c'est pour Maradona, on peut dire que Dieu a retrouvé sa main dans notre ciel, l'automne a retrouvé sa place. C'est un véritable automne que nous vivons en ce moment et nous en avons aujourd'hui encore tous les ingrédients avec des brumes, des températures froides qui ne sont rien par rapport à celles que nous vivrons la semaine prochaine. Car le froid va s'installer, les brumes seront toujours là, la Bretagne, les Pays de la Loire, l'île de France sous des brumes aujourd'hui et des éclaircies quand même sur la ville de Lyon, sur le massif central, le sud-ouest, le centre et de Poitou-Charentes. En Méditerranée, du gros temps, dont je reparlerai tout à l'heure, parce que ce gros temps va s'amplifier dans les heures qui viennent. Les températures maximales de 10 degrés à Paris à 17 à Nice, en passant par 14 à Rennes et 15 à Clermont-Ferrand.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je suis né dans le football. Je savais très bien qui j'allais devenir. Mais je ne savais pas que je serais cocaïnomane.
Pouvait-on faire encore mieux que Dieu lui-même ? Maradona s'était posé la question, lui que l'Argentine voit comme le plus grand footballeur de tous les temps. Buteur magnifique, génie inspiré des terrains. Son pays pleure un héros national. Nous serons à Buenos Aires dans un instant avant d'entendre Didier Roustan en direct, le journaliste qu'il connaissait depuis près de 40 ans. Dans ce journal, le but par but de Jean Castex, attendu ce matin sur les auto-écoles, les agences immobilières et les cultes dans ce déconfinement. rapidement. Et puis, un autre héros, un Français, le grand résistant Daniel Cordier, aujourd'hui aux Invalides.
Juste après ce journal, la gestion de l'épidémie, les attentes. Alors que Jean Castex prend la parole ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un but de légende à l'image d'un homme devenu ce jour-là un héros pour l'Argentine. Il dribble un premier joueur, un deuxième, il parcourt 60 mètres, ballon au pied, il se défait d'un troisième joueur, puis du gardien anglais. Il marque, c'est le but du siècle.
À lui tout seul, Maradona, le fantassin, vient de rendre son honneur à l'Argentine. Nous sommes alors 4 ans après la guerre des Malouines, perdue contre l'Angleterre.
Et savez-vous ce que dit l'arbitre de ce match, qui 5 minutes plus tôt n'avait pas vu la main de Dieu, ce but de la main de Maradona ? Cet arbitre, c'est un Tunisien, Ali Benasser. J'ai eu la fierté de participer à ce chef-d'œuvre, dit-il aujourd'hui à 76 ans.
Ce chef-d'œuvre que personne n'a oublié dans la capitale argentine. Bonjour, Audvilliers Moriamé.
Bonjour.
Vous êtes pour Europe 1 à Buenos Aires, où la mort de Diego Maradona est un drame national.
Oui, les supporters de Maradona se sont rassemblés par milliers dans la soirée près de l'obélisque en plein cœur de la capitale pour chanter ensemble des slogans en mémoire de leur idole décédée ce mercredi. Nicolas Gomez, 31 ans, visiblement ému, porte un t-shirt à l'effigie de Diego Maradona.
Je suis maradonien de naissance. Diego, c'est tout pour moi. Il représente plus que ma famille, que ma propre mère. Aujourd'hui, une partie de moi est morte, une grande partie de ma vie. Je suis triste, mais je sais qu'il va reposer en paix parce qu'il a tout donné à l'Argentine et que les gens l'aiment.
Drapeau argentin bleu ciel et blanc à la main, Myriam Potrichot, 52 ans, tenait elle aussi à se rendre ici en famille pour saluer la mémoire du meilleur joueur de l'histoire du pays.
Diego représente l'Argentine. On voyage et quand on dit qu'on est argentin, on nous cite tout de suite Maradona. Il incarne le peuple argentin. Il avait ses défauts en tant que personne, bien sûr, mais en tant que joueur de foot, c'était une idole totale.
Dans la soirée, depuis leur fenêtre, les Argentins ont applaudi vigoureusement en hommage à Diego Maradona. Il devrait aussi être des milliers à défiler à la Casa Rosada, le palais présidentiel, d'ici quelques heures. C'est là qu'aura lieu la veillée funèbre de Diego Maradona avant son enterrement.
Audvilliers Moriamé à Buenos Aires pour Europe 1.
Alors la star absolue qu'était Diego Maradona avait aussi connu les excès de la gloire, la drogue en particulier, son addiction à la cocaïne.
Et il en était pleinement conscient dans ses conversations livrées en 2008 au cinéaste Emir Kusturica.
Quel joueur j'aurais pu être si je n'avais pas été accro à la coke ? On a perdu un très grand joueur. Je suis né dans le football. Je savais très bien qui j'allais devenir. Mais je ne savais pas que je serais cocaïnomane. Je savais que j'achèterais une maison à ma mère, que je me marierais, que je fonderais une famille, que je parcourrais le monde, que je gagnerais la Coupe du Monde. Je savais tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai cette culpabilité en moi.
Je sais la culpa que tengo.
Loin de cette culpabilité, il y a ces mots de celui qui n'est pas un dieu, mais un roi, Pelé, le Brésilien. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel, dit-il. Pelé, numéro 10, comme Maradona, comme Zidane, Platini, puis comme Messi, autre Argentin, plus grand de 5 cm que Maradona, du haut de son 1m70.
Et le journaliste Didier Roustan est avec nous en direct. Bonjour Didier Roustan.
Bonjour.
Alors avant de parler de l'homme que vous connaissiez depuis près de 40 ans, je vous proposais de trancher ce débat peut-être éternel. Le plus grand joueur de tous les temps, de l'histoire, c'était lui ?
Ah, c'est difficile, parce que j'ai connu Pelé aussi, et Pelé était un monstre footballistique. C'est comme choisir entre papa et maman, c'est compliqué quand l'un ou l'autre, et que j'étais gosse, me posait la question. J'avais du mal à répondre. Mais ce sont les papas et mamans du football, bien sûr.
Les papas et mamans du football. Didier Roustan, vous aviez rencontré Maradona dès 1982. Vous aviez lancé plus tard cette aventure avec lui et Eric Cantona d'un syndicat international des joueurs. Racontez-nous votre Maradona. Au-delà du football, quel homme était-il ?
Alors, durant le syndicat, j'allais deux fois par mois à Buenos Aires. Et là, effectivement, nous avions des rapports qui n'étaient pas professionnels. Enfin, si, par rapport au syndicat, mais aussi des rapports intimes où je pouvais aller manger chez lui ou au restaurant ou le voir dans un autre cadre et aux côtés de son premier cercle. C'était quelqu'un de très simple, de très humble, assez timide quand il connaissait pas trop les gens, contrairement à l'arrogance que parfois il pouvait dégager, notamment sur un terrain ou même un petit peu en dehors. C'était quelqu'un de profondément vrai. sincère, très proche du peuple, touché par toute forme d'injustice. Dans la tradition sud-américaine, hein, il avait d'ailleurs un tatouage du Che sur l'épaule, et quelqu'un de révolté, mais aussi avec des fragilités. Alors, quand j'entends l'extrait de l'interview qu'il donne à Costa Rica, j'ai eu une discussion avec lui par rapport à ça, parce qu'on en avait discuté, donc c'était quelques années auparavant. Et j'étais pas d'accord avec lui, parce que je pense que, je dis pas qu'il avait besoin de ça, il est entré dans cette addiction infernale suite aux souffrances qu'il endurait par rapport à une fracture terrible dans un match Barcelone-Bilbao. Mais je trouve que Maradona avait besoin de cet excès, parce que Maradona est un génie. Et les génies brûlent leur vie, c'est comme ça. Ils ne pouvaient pas avoir une vie normale, même s'il explique que tout jeune, il savait qu'il serait un grand footballeur, qu'il fonderait une famille, etc. Et tout. Maradona appartient au peuple, Maradona est plus qu'un footballeur.
Et c'est une personnalité.
Ça cadre finalement avec ce qu'il était. Il ne pouvait pas être dans la normalité.
Personnalité entière,
pas
en tout cas.
C'est quelqu'un de normal, puisque c'était un génie.
Puisque c'était Diego Maradona. C'était de Dieu, c'est de Dieu dont on parle, a priori. Merci beaucoup, Didier Roustan, en direct ce matin dans le journal de 8h d'Europe 1.
Et il y a parfois une pointe de lyrisme, forcément, ce matin, dans les hommages, comme Emmanuel Macron qui livre 2 pages de communiqué. La main de Dieu avait déposé un génie du football sur Terre, écrit le président français. Elle vient de nous le reprendre d'un dribble imprévu qui a trompé toutes nos défenses.
Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis le début de cette matinale, chef du service des sports d'Europe 1. Après le joueur, il y a eu l'entraîneur Diego Maradona.
Et quel que soit son charisme, ce ne fut pas du tout le même succès, Jean-François.
Oui, et pourtant tout avait bien commencé. En 2008, Maradona prend la sélection argentine comme une évidence. Ses causeries d'avant-match pleines de ferveur patriotique font pleurer le vestiaire. Ses joueurs sont à bloc, gonflés d'orgueil d'être dirigés par la référence ultime. Et ça marche au début du moins. Un soir de février 2009, Maradona vient même en France, à Marseille, où je me trouve, la ville où il a failli jouer. Il est accueilli en héros, le jeune Léo Messi marque un but. Les Argentins gagnent 2-0. Je me suis senti comme à la maison, dira-t-il. La suite, hélas, est plus compliquée. Maradona se braque, il insulte la presse, les résultats ne suivent pas, il est limogé après la Coupe du Monde 2010. En fait, il voulait sans doute trop que ses joueurs lui ressemblent. Son niveau d'exigence technique et mentale était très élevé, sans doute trop. Personne ne peut être Maradona et c'est pour ça qu'il est si difficile pour les anciennes gloires d'être aussi de grands entraîneurs, parlez-en notamment à Michel Platini. Courant le cacher au fil des saisons et du yo-yo de son état de santé, Maradona jouera au Globetrotter, un peu pathétique parfois, aux Émirats, en D2 mexicaine. Et même en Biélorussie, où il est un éphémère président d'honneur, mais oui, du club de Brest-Litovsk. Tout le monde veut être sur la photo avec lui, mais cela ne dure jamais longtemps. Son dernier poste symbolique lui aura permis de revenir à la maison, au Gimnasia La Plata, à Buenos Aires. Il ne marchait quasiment plus, mais rien que par sa présence, les supporters marchaient sur l'eau. Non, Maradona n'était pas le plus grand entraîneur, mais qu'est-ce qu'il était entraînant.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Maradona, à qui des artistes ont dédié des fresques, des statues et des chansons, comme ici Manu Chao, tout au long de sa vie.
Et je renvoie tous nos auditeurs à cette page spéciale où vous retrouverez tous ces hommages entendus ce matin. Seb Blatter, l'ancien président de la FIFA, le journaliste Pierre-Louis Basse, nos archives sonores, tout cela c'est sur Europe 1.fr. 8h10, l'actualité en France se résume à quelques questions que doit aborder Jean Castex ce matin à 11h.
Conférence de presse avec les ministres de l'économie, de la culture, de la santé. Aurélie Herbemont, c'est la suite de l'intervention du président mardi soir.
Et oui, à Jean Castex d'éclaircir certains points d'ici ce week-end. Les auto-écoles et agences immobilières, dont le sort était en suspens, devraient rouvrir samedi, comme les autres commerces. Il doit aussi arrêter la jauge pour les cultes. Les responsables religieux veulent plus que les 30 personnes annoncées par Emmanuel Macron, mais certains au gouvernement plaident pour un assouplissement uniquement à partir du 15 décembre, en clair, quand on passera au couvre-feu. Moment crucial pour cinémas et théâtres qui attendent un arbitrage sur l'horodatage des billets qui serviront de justificatif de déplacement. La tolérance pour les séances finissant un peu après 21h est en suspens. Mais Jean Castex n'aura pas réponse à tout ce matin. Le ski à Noël, ça ne sera pas tranché aujourd'hui, ni l'isolement des malades. Le président a ouvert la porte à un système contraignant, mais le principe de sanction ne fait pas l'unanimité au sein même de la majorité. Au gouvernement, on évoque un débat parlementaire en décembre et un projet de loi en janvier. Idem pour le comité citoyen sur le vaccin. À ce stade, c'est toujours en cours de calage.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Concernant les stations de ski, l'Allemagne va demander qu'elles restent fermées dans toute l'Europe jusqu'au 10 janvier. Ce sera cet après-midi l'hommage national à Daniel Cordier, ce grand résistant qui fut le secrétaire de Jean Moulin, 15h30 aux Invalides à Paris.
Bonjour Aude Leroy.
Bonjour.
Avec le contexte sanitaire, le président a voulu s'astreindre à une assistance d'une trentaine de personnes qui ont donc été choisies avec une symbolique très forte.
Oui, à commencer par un invité important, Hubert Germain, âgé lui aussi de 100 ans. Il est le dernier compagnon de la Libération en vie. Alors après une messe en présence de sa famille, ce sont 6 élèves de l'école de Saint-Cyr qui déposeront le cercueil de Daniel Cordier à même le pavé, incarnant ainsi l'humilité de l'homme face à la mort. Autre symbole, le drapeau du 44e régiment d'infanterie, celui des services secrets auquel appartenait l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Un étendard important au moment où la DGSE recrute beaucoup de jeunes qui pourraient être inspirés par l'exemple des compagnons de la Libération. Puis Emmanuel Macron prendra la parole. Et c'est au son de la marche des tambours que le cercueil quittera la cour des Invalides. Daniel Cordier sera enterré demain matin au cimetière du Père Lachaise. C'était son choix. Sa hantise était d'être le dernier compagnon en vie, auquel cas sa dépouille aurait été enterrée dans la crypte du Mont Valérien, lui qui trouvait cette crypte trop froide.
Aude Leroy pour Europe 1. Et puis Mathieu, revenons une seconde au football avec ce résultat qui fait rentrer Marseille à sa façon dans l'histoire de la Ligue des Champions. 13e défaite d'affilée dans cette compétition, un record. C'était hier soir 2-0 à domicile face à Porto.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Il ne cesse de demander de la clarté dans la gestion de la crise sanitaire. Alors depuis qu'Emmanuel Macron a parlé, est-ce plus clair ? Réponse à suivre, à tout de suite.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat.
Bonjour Gérard Larcher, bienvenue à vous.
Bonjour.
Dans la gestion de la crise sanitaire, vous ne cessez de demander de la clarté. Est-ce que depuis que le président a parlé, on y voit plus clair désormais ?
On a un calendrier, on a des objectifs qui sont fixés. Maintenant, il s'agit de retrouver la confiance parce qu'on a eu l'échec de tester, tracer, isoler. Et aujourd'hui, on a 2 défis à relever. Le défi que le président de la République a posé, en quelque sorte, par rapport à isoler. Et le second défi, c'est l'organisation des campagnes vaccinales qui doivent permettre de contribuer, à côté des gestes sanitaires, des gestes barrières, à sortir enfin de cette pandémie.
Sur le premier point, Emmanuel Macron demande, Gérard Larcher, un débat parlementaire sur le sujet ô combien sensible de l'isolement des malades du Covid. À titre personnel, est-ce que l'isolement par la contrainte est une nécessité pour vous ?
D'abord, débat parlementaire, ça ne suffit pas. Le vrai débat du Parlement, c'est un projet de loi. Et ça ne suffit pas de débattre et d'avoir un vote.
Il faut un projet de loi, donc.
Sur cette matière, on est vraiment dans une liberté fondamentale. Je préfère mon terme isolé, le terme s'isoler. Le premier des sujets, c'est complètement différent, c'est la responsabilité du citoyen.
Donc vous m'avez répondu, vous n'êtes pas pour la contrainte,
attendez,
vous êtes pour l'incitation.
Je n'ai pas encore répondu,
s'isoler.
Mais s'il doit y avoir contrainte, elle doit respecter un certain nombre de conditions. Le respect du secret médical, l'accompagnement des personnes, les clauses de cet isolement. Voilà pourquoi ça mérite un débat en profondeur, que seul un projet de loi peut apporter, avec cette sensibilité si particulière du Sénat, à 2 choses. Les libertés, mais aussi la proximité, parce que, pardonnez-moi, la proximité. Nous avions tendu la main au gouvernement sur la question des commerces, en disant c'est au préfet de dialoguer avec les élus et avec les organisations professionnelles.
Et est-ce que votre main a été saisie ?
La main n'a pas été saisie réellement.
Regardez,
mais regardez l'exemple des cultes. Une règle univoque partout, entre, pardonnez-moi, le temple de ma paroisse à Rambouillet et une grande église, le même chiffre de 30 n'a pas de sens.
C'est une décision qui est intenable selon vous ?
Elle n'est pas simplement intenable. On est sur une liberté fondamentale. Le Conseil d'État l'a rappelé. Il faut donc dialoguer avec les cultes pour voir dans quelles conditions l'exercice du culte peut se dérouler en respectant l'ensemble des conditions sanitaires et des gestes barrières.
Gérard Larcher, je ne comprends pas, parce que l'exécutif dit qu'il a dialogué avec les cultes, avec le responsable des évêques de France. Est-ce que selon vous, il y a eu par cette jauge de 30 personnes une erreur d'appréciation, ou bien l'exécutif, selon vous, fait peu de cas eh bien, des catholiques de France ?
Je ne sais pas s'il fait peu de cas des catholiques ou des autres cultes, mais je crois que là aussi, la proximité, le bon sens, c'est la première des réponses que nous devons avoir. Et je dois dire que rétro-pédaler le lendemain pour passer de 30 à autre chose, c'est pas la meilleure des conditions pour recréer la confiance. La parole de l'État est importante, la parole du président de la République est essentielle. Il lui faut de la stabilité, mais la stabilité, ça veut dire dialogue, concertation préalable. Voilà pourquoi j'ai dit que ne pas associer le Parlement à un certain nombre de décisions. Je ne parle pas de grandes réunions où on est 50. Je parle le Parlement en tant que tel, saisi comme assemblée. C'est, me semble-t-il, indispensable en ces temps
mais c'est le président
où il y a
du Sénat.
Un débat entre liberté et l'indispensable sécurité sanitaire.
Mais qu'est-ce que cela aurait changé ? Dites-nous ce matin pour nos auditeurs, qu'est-ce que cela aurait changé ? Parce que les oppositions, notamment à droite, laissent penser qu'elles ont la solution magique pour les Français.
On n'a pas de solution magique. Mais si je prends l'exemple des commerces, et j'y reviens, quant à l'unanimité, le Sénat vote un amendement qui confie à ceux qui sont les acteurs du territoire le fameux couple préfet-maire, si cher au Premier ministre. Dans un dialogue aussi avec les organisations professionnelles, est-ce qu'on n'a pas proposé une solution à l'unanimité ? Vous voyez bien qu'on a transcendé tous les clivages politiques.
Vous vous êtes prononcé, Gérard Larcher, pour une vaccination obligatoire. Elle ne le sera pas finalement. Est-ce que vous le regrettez ?
J'ai dit vaccination obligatoire si nécessaire. Je pense en effet que quand on se vaccine pas uniquement pour soi, mais on crée en quelque sorte une chaîne de solidarité sanitaire. C'est pas par hasard. Si, il y a des décennies, on a rendu obligatoire, notamment pour les enfants, diphtérie, tétanos et polio. Et donc, aujourd'hui, nous attendons la mise en place d'une stratégie vaccinale qui nous soit proposée.
Vous l'attendez, vous l'avez un petit peu, monsieur le président du Sénat. Et il est impensable de croire que vous n'avez pas quand même les détails d'un dispositif à venir.
Nous n'avons pas
venir.
Encore ah bon, la stade... stratégie vaccinale. Et je pense que c'est un sujet
vous
qu'il
n'avez pas
faut
été consulté
partager, mais parce qu'elle n'est pas encore arrêtée. On a nommé des messieurs, des madames, on a une quantité de comités. Dans une démocratie, c'est d'abord le dialogue entre l'exécutif, le Parlement et les élus du territoire. Voilà pourquoi j'ai dit au président de la République, il y a maintenant presque 3 semaines, je l'ai dit au Premier ministre, parlons-nous.
Et alors ?
Et nous pas uniquement nous appeler au secours quand il faut trouver une formule pour l'isolement.
Le quoi qu'il en coûte, ce sont des actes, a dit le président, qu'il faudra rembourser ?
Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons, pour cette année, sans doute fait appel à l'emprunt plus que le budget. Notre déficit, vous le savez, c'est aujourd'hui un déficit important. Nous avons perdu 11% de notre production intérieure brute. Il y a des réalités. Elles étaient sans doute nécessaires, parce qu'il faut être solidaire. Et nous sommes en train. Hier soir, nous avons voté la première partie du budget, avec des chiffres qui sont déjà dépassés par les annonces du président de la République faites la veille.
Et, oui.
Et d'ailleurs, nous allons demander dans la deuxième partie d'ajuster nos chiffres. Et nous savons que nous aurons, au cours du premier trimestre, un projet de loi finance pour ajuster encore. Et il y a des réalités, il faut dire aux Français que ce n'est pas de la monnaie qui n'a pas du sens et qu'il faudra un jour rembourser.
Alors dites-nous tous la vérité, monsieur le président du Sénat, comment résorber une dette qui dépasse les 120% du PIB sans augmenter les impôts des Français ?
Écoutez, la réponse, elle n'est pas pour aujourd'hui. On va prendre les problèmes les uns derrière les autres.
Si on laisse ça à nos enfants ?
Il faudra, à l'issue de la crise, faire un point, rebaser financièrement, voir quelles sont les perspectives. Parce que sinon, c'est les enfants de mes petits-enfants qui continueront à payer la crise pandémique que nous connaissons aujourd'hui. Il faudra qu'il y ait une opération vérité qui, je l'espère, viendra assez tôt pour que nous retombions, j'allais dire, sur nos deux jambes.
Retomber sur ses deux jambes également, sur des textes importants, Gérard Larcher, notamment le texte sur la sécurité globale qui arrive au Sénat avec le fameux article 24 qui fait polémique. Qu'est-ce qui va se passer au Sénat ? Parce que certains sénateurs parlent de cet article comme étant inapplicable et inconstitutionnel.
D'abord, il nous faut protéger nos gendarmes et nos policiers. Ce texte, on s'est focalisé sur l'article 24, cette proposition de loi de nos collègues députés, elle vise à ce qu'on appelle un continuum de sécurité. Depuis le maire jusqu'à la justice, en passant par policiers et gendarmes, mais aussi prévention et pénitentiaire. Et donc, c'est un texte qui s'inscrit dans cette volonté d'assurer, dans un état de droit, la sécurité. L'article 24 vise à protéger gendarmes et policiers, mais sa rédaction, malgré quelques améliorations qui sortent de l'Assemblée nationale, nous semble être une piste qui doit être réanalysée, revue.
Dans
avec
quel sens ?
Deux objets.
Oui.
La liberté de la presse.
Bien
elle
sûr.
Est sacrée. Et c'est la loi 1880, mais dans une démocratie, elle est sacrée. Et la nécessaire protection des gendarmes et des policiers, je pense que les réflexions qui sont conduites par le président François-Noël Buffet, des rapporteurs comme Philippe Bas.
Philippe Bas, justement, il dit cet article 24,
Dobresse,
monsieur le Président, il dit qu'il porte atteinte à la liberté de la presse et n'est d'aucune aide pour les forces de l'ordre. Vous rendez
voilà pourquoi il faudra sans doute en faire un article du Code pénal et inscrire de manière claire et lisible le délit et la peine.
Clarté, n'est-ce
et
pas ?
Et le voir d'une manière apaisée et penser que le rôle d'une deuxième chambre, comme disaient Washington et Jefferson, c'est de refroidir la tasse de thé trop chaude.
Alors, on va parler justement de cette deuxième chambre et la tasse de thé trop chaude sur un sujet brûlant. Il est important que l'on en parle ce matin. Le Sénat a voté une résolution pour la reconnaissance du Haut-Karabakh, berceau, j'insiste, de la civilisation arménienne. La Chambre haute qui dénonce l'inaction française. Qu'est-ce que ça veut dire ? La France n'est pas à la hauteur ?
Le débat d'hier, c'était d'abord un devoir, parce que c'est nos histoires et nos valeurs, l'Arménie. Souvenons-nous de ce qui s'est passé et qui a été qualifié à juste titre de génocide arménien. C'est aussi 304 voix hier, avec simplement une seule voix contre. 304 voix pour dire on ne peut pas laisser un peuple être encerclé et en quelque sorte pris en étau. C'est aussi la protection d'une croyance, d'une civilisation, et ça, c'est notre démarche. C'est aussi l'urgence de l'aide humanitaire.
Oui.
C'est l'urgence d'une enquête internationale, du retour des déplacés, et la proposition du Sénat, c'est d'affirmer l'indépendance du Haut-Karabakh.
Mais on vous entend ce matin, mais cette résolution si importante, elle a quand même une portée symbolique, monsieur le président du Sénat.
Pas que symbolique, nous allons la faire partager par d'autres parlements de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ma tâche, moi qui ai présidé les Sénats d'Europe. Et je ne veux pas simplement que ça soit, en quelque sorte, un espèce d'ex-voto. Nous avons eu des moments... Parce qu'il y a des moments au Parlement où la question des droits humains, du droit des hommes et des femmes, du droit des peuples aussi à disposer d'eux-mêmes, sont des moments essentiels.
Où est la voix de la France ? La voix de la France et la voix de son président également ? Où est-elle ?
Et j'espère que l'évolution aux États-Unis va permettre au groupe de Minsk, notamment avec la Russie, avec les États-Unis et la France, de reprendre leur tâche qui, depuis 22 ans, c'est vrai.
Est-ce que la clé, c'est la Russie ? Est-ce que vous appelez le gouvernement, très concrètement, à s'appuyer sur les relations franco-russes ? Parce que le Kremlin a une influence
le
historique et forte
avec les Russes,
dans le Caucase du Sud.
Je suis trop gaulliste pour penser que c'est le Parlement qui fait la politique étrangère, mais il peut y contribuer. Et je ne vous cache pas que je vais saisir, à l'issue de ce débat, la présidente du Conseil de la Fédération, qui est le Sénat russe, sur des sujets aussi importants, parce que ce sont des sujets qui, pour la Russie, sont aussi des réalités. Je pense que l'intérêt de la Russie est que nous trouvions une solution apaisée. Mais je pense en même temps à ces hommes et ces femmes, ces enfants déplacés, qui ont perdu tout simplement leur maison. La violence d'une guerre, c'est aussi des réalités humaines. Et qu'un Parlement s'en préoccupe, c'est, me semble-t-il, à l'honneur du Parlement. Et je voudrais saluer le fait que c'est quasiment tous les présidents de groupe, du groupe communiste au groupe républicain, passant par les centristes, par
le
les écologistes, et le soutien unanime des radicaux dans leur vote, eh bien, cette réalité-là, c'est quand même, c'est qu'au fond, ces valeurs-là sont pour nous les vraies valeurs que nous portons dans la République.
Et c'est l'honneur de la France. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, 8h28.
Europe Matin. Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, l'info avec Hélène Zélani.
Trois jours de deuil national en Argentine et une veillée funèbre qui commence dans une demi-heure au palais présidentiel à Buenos Aires. Des milliers de personnes se préparent à défiler devant le cercueil de Diego Maradona, la légende du foot décédé hier à 60 ans d'une crise cardiaque. Le célébrissime numéro 10 était aussi une légende à Naples où il a fait briller le maillot bleu ciel du club entre 84 et 91. Dès hier soir et malgré le couvre-feu, des milliers d'habitants ont tenu à saluer sa mémoire. Le reportage de Blandine Huguenet.
Sous les immenses fresques murales de Maradona, des jeunes allument un fumigène bleu, les larmes aux yeux comme Francesco.
Je n'arrive pas à y croire, je me souviens encore aller le voir au stade. C'est comme si mon père était mort, je suis détruit.
Bougies, bouquets de fleurs dans le quartier espagnol de Naples, une petite place s'est transformée en sanctuaire. On vient se recueillir ici, faire le signe de croix devant des photos. Malgré ses addictions, ses liens avec la mafia, Maradona est devenu une légende napolitaine pour Sasa qui porte le maillot numéro 10.
Dans le foot, c'était un surhomme, mais dans la vie de tous les jours, il était comme nous, avec ses faiblesses. C'est ça aussi qui a créé un lien si fort avec nous. Naples, c'est Maradona.
Depuis 30 ans, le dieu du foot fait partie de l'ADN de la ville. C'est ce que raconte aussi Manuela dans son bar. Son père était le chef des tifosi du Napoli à l'époque.
C'était un saint, il nous a tous donné de la joie ici. On a grandi avec lui, on a Maradona dans le sang. Nous, on dit que Naples, c'est trois choses. Le Vésuve, le café et Maradona.
Et dans la vie de la squadra de Maradona, les Napolitains sont bien décidés à se réunir encore ces prochaines heures pour poursuivre ce deuil tous ensemble. Naples, Blandine Huguenet, Europe 1.
Et le stade San Paolo de Naples devrait bientôt être rebaptisé Maradona. Il accueille ce soir les Croates de Rijeka en Ligue Europa. Dans l'actualité ce matin, la prise de parole de Jean Castex à 11h. Le Premier ministre doit détailler les mesures annoncées par Emmanuel Macron, notamment sur la jauge pour les cultes. 30 personnes autorisées, les responsables catholiques estiment que ce n'est pas suffisant. Dans l'Hexagone, les commerces vont rouvrir après-demain. En Martinique, ils ont pris un peu d'avance grâce à l'amélioration de la situation sanitaire. Et dès hier, les rideaux de fer étaient relevé. Comment s'est passée cette première journée à Fort-de-France, Fanny Marceau.
Ce moment chez le coiffeur, Anita l'attendait depuis longtemps.
C'est super, hein, c'est bien de se faire bichonner. J'appelle aujourd'hui pour avoir rendez-vous et puis je suis ici à 7h.
Dans ce salon, elle est la seule cliente. En une journée, Dario, le coiffeur, n'en a pas vu plus de 10. Il faut dire que l'annonce de la réouverture n'a été faite que la veille au soir.
On a été tous pris, je pense, au dépourvu. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore complètement débloqué, mais je pense que d'ici demain, ça ira mieux. Mais le téléphone sonne déjà beaucoup. C'est vrai que nous avons déjà pris beaucoup de rendez-vous. Pour le week-end, nous sommes déjà bien bokeh.
Pas de ruée non plus chez les esthéticiennes ou les rayons jouets des hypermarchés désormais ouverts. Ziad tient une boutique de vêtements. Il déballe ses tenues de fête. Dans son magasin, un seul client alors qu'il a beaucoup plus de place.
J'ai 80 mètres carrés d'espace de vente, donc il faut limiter à 10 personnes. Là, clairement, l'objectif de cette année, c'est de réussir à payer tous mes fournisseurs. Donc là, j'ai beaucoup de retard dans mes paiements. J'espère boucler l'année sans dette.
Ce qui devrait vraiment changer la donne, c'est la réouverture des restaurants. Si la situation sanitaire continue à s'améliorer, ils pourraient rouvrir dans 2 semaines, soit avec plus d'un mois d'avance par rapport à l'Hexagone. Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.
Les professionnels de la montagne, eux, resteront dans le flou. La question de l'ouverture des stations pour Noël ne sera pas tranchée dès aujourd'hui. L'Allemagne va demander à l'Union européenne d'interdire les séjours au ski jusqu'au 10 janvier. Une éclaircie sur le plan économique, information Europe 1. Veolia, le spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets, recherche 1 millier de salariés des postes en CDI. Le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire des écoutes reprend cet après-midi. Le tribunal doit se prononcer sur la demande de renvoi d'un des prévenus pour raison médicale. Et puis c'est dans la cour des Invalides et en très petit comité que se tient aujourd'hui l'hommage national à Daniel Cordier, l'ancien résistant et secrétaire de Jean Moulin. Emmanuel Macron prononcera un discours sur ce destin français emblématique.
Merci Hélène Zélani. Vous êtes sur Europe 1 et avant de passer la parole à Laurent Cabrol, petit extrait de musique puisqu'on rend hommage à Diego Maradona ce matin. Mano de Dios, une chanson à la gloire de Diego Maradona, chantée par Diego Maradona. On savait le footballeur, on a raconté ses frasques, ses aventures. On a le chanteur ce matin aussi. 8h35 sur Europe 1. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, avec un temps qui, dans l'ensemble, n'a pas trop bougé depuis tout à l'heure, à savoir des brouillards sur une petite moitié nord. D'ailleurs, ils ne sont pas trop méchants, hormis quelques brouillards givrants du côté de Châteaudun. Mais nous avons aussi de la pluie sur le littoral méditerranéen, en particulier sur le Languedoc-Roussillon, dans le golfe du Lion. Et cette pluie, pour l'instant, n'est pas encore non plus extrêmement méchante. Donc, nous avons un temps plutôt calme sur le pays, avec des vents vents qui sont pratiquement stationnaires autour de 20-30 km/h. Et puis nous aurons dans l'après-midi 11 à Caen, 12 à Lyon, 13 à Bourges, 14 à Rennes, 15 à Clermont, 16 à Montluçon, 17 à Bordeaux, 18 à Marseille, j'ai pas oublié Paris, 10 degrés à Paris qui sera l'une des villes les plus fraîches car la couche nuageuse va se maintenir. Elle va se maintenir aussi sur la Normandie, sur le Nord et sur la Bretagne. Et puis nous aurons des éclaircies dans certaines contrées comme le Poitou-Charentes, la Champagne-Ardenne, la région lyonnaise, la région Rhône-Alpes, le Massif central et le Sud-Ouest. Voilà pour une journée sans grande personnalité. Mais je vous l'ai dit, pour la fin de semaine, ça devient très froid pour certains d'entre nous, même presque pour tout le monde. Et puis ça devient surtout très agité dans le golfe du Lion et en particulier sur le Languedoc-Roussillon.
On surveillera effectivement les pluies attendues. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Il est 8h36 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tous les matins, on vous retrouve avec vos questions de santé pour nos auditeurs. Jimmy, nous allons parler ce matin de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Il y aurait, selon une étude de Santé publique France, des progrès à faire quant aux connaissances des Français, hein, sur cette pathologie.
Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que c'est une pathologie qui touche 140 000 Français chaque année et c'est la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. C'est aussi la première cause de handicap moteur d'origine non traumatique, c'est-à-dire qui n'est pas la conséquence d'un accident, chez l'adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de connaître les symptômes puisque plus tôt vous allez reconnaître un accident vasculaire cérébral, plus tôt vous allez être pris en charge. Et c'est tout l'idée de cette étude de Santé publique France qui s'est intéressée aux connaissances des Français sur l'accident vasculaire cérébral. Alors plusieurs choses à noter. La première, c'est que les connaissances ont progressé. C'est mieux qu'il y a quelques années. Néanmoins, il existe encore certaines idées reçues, comme par exemple celle qui consiste à croire qu'il n'y aurait pas de traitement de l'accident vasculaire cérébral. Eh bien, un Français sur deux pense que c'est une fatalité et qu'on ne peut rien faire. De la même façon, un Français sur deux pense que l'accident vasculaire cérébral touche que la tête. Ça veut dire qu'il y en a un sur deux qui n'est pas au courant que ça peut toucher le cerveau. Donc ça veut dire que nous avons des progrès à faire puisque, comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Et bien, d'une façon générale, pour l'accident vasculaire cérébral, le temps, c'est des neurones en moins lorsque vous avez cette pathologie.
Alors, quels sont les signes qui doivent nous alerter ou nous faire suspecter un AVC ?
Alors, tout d'abord, il faut comprendre que ça peut toucher tout le monde, quel que soit votre âge. Effectivement, ça touche un peu plus les personnes âgées de plus de 65 ans, mais même à 40 ans, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral et même plus jeune. Ça touche les hommes et les femmes, et ça touche même un peu plus les femmes que les hommes, pour deux raisons. La première, c'est qu'elles vivent plus longtemps, et puis elles sont exposées au cours de leur vie à des phénomènes liés aux hormones, la grossesse, la contraception, qui peut les rendre un peu plus sensibles à ce niveau-là. En ce qui concerne les symptômes, il faut comprendre qu'un accident vasculaire cérébral, c'est une artère qui va se boucher ou qui va saigner. Par conséquent, le cerveau ne va pas avoir d'oxygène et rapidement, vous allez avoir des signes neurologiques qui vont toucher une partie de la commande. C'est un peu quand vous enlevez, vous savez, le fusible dans un disjoncteur d'un appartement, eh bien, vous n'avez plus de lumière dans le salon et puis tantôt dans la cuisine. Eh bien, si jamais il y a une zone du cerveau qui est touchée, vous allez avoir un bras qui va être paralysé, faible, engourdi, une jambe, des maux de tête inhabituels, des troubles de la vue. Et surtout, si jamais vous avez ces symptômes, il y a une seule chose à faire, c'est pas d'aller à l'hôpital, c'est d'appeler le 15, puisqu'il faut vous traiter dans les 3 heures. Au-delà de 3 heures, eh bien, on pourra plus faire grand-chose. Donc, chaque minute compte, on appelle le 15. Et surtout, si ça vous arrive à 22h, ne vous dites pas « je vais aller me coucher, on verra demain, ça ira peut-être mieux, c'est un coup de fatigue ». Même chose pour papy-mamie, on ne les met pas dans la cuisine, comme on a dit, mais en plus de ça, s'ils ont ces symptômes, on appelle le 15, vous aurez un médecin régulateur, et si jamais ce n'est pas un AVC, eh bien vous serez rassuré.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours de 15h à 16h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Merci Jimmy, il est 8h41. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, vous nous dites ce matin que les jeux vidéo s'emparent de plus en plus des sujets environnementaux.
Oui, alors c'est le cas depuis bien longtemps quand même. Les jeux vidéo ont depuis tout temps, je dirais, utilisé la nature comme décor grandiose ou encore la wilderness hostile contre laquelle le joueur va se battre ou dans laquelle tenter de survivre ou bien les ressources naturelles dont le joueur va pouvoir disposer pour construire une civilisation. Ça existe ça depuis les années 90 comme SimCity, Warcraft ou encore Age of Empires. Mais on peut considérer en y regardant de près que l'industrie vidéoludique évolue vers une conscience écolo plus forte, un effet miroir de nos préoccupations sociétales vis-à-vis de la dégradation de la planète. Plus cette préoccupation grandit dans la vraie vie, plus les jeux vidéo étoffent leur scénario avec la nature, non plus en filigrane, mais comme point central, comme intrigue, non plus comme décor, mais comme un élément qui donne au jeu sa raison d'exister.
Des jeux dans lesquels les méchants ne seraient plus des personnages fictifs, mais des humains.
Oui, des jeux vidéo où le joueur serait lui-même son propre ennemi. C'est la toile de fond que proposent de plus en plus de développeurs indépendants, comme dans le jeu Seeds of Resilience, sorti il y a 2 ans. Le scénario, c'est rescapé d'un naufrage. Les joueurs sont invités à commencer la partie par le recensement et la collecte des ressources de la terre où ils débarquent. Un endroit où le seul ennemi potentiel, c'est le joueur, en fait, qui doit intelligemment gérer les ressources en eau, en pierre, en terre rare. Et s'il est trop gourmand, il déclenche une chaîne de conséquences qui se répercutera sur la faune, sur la flore et in fine sur lui-même.
Vous avez aussi pu recenser des jeux sortis très récemment où le but là est de sauver l'humanité.
Oui, oui, en se basant sur des problématiques en fait très réalistes et très contemporaines. Je vous en ai choisi un, le jeu Echo, qui est sorti en 2018. La mission du joueur est de sauver l'humanité face à une météorite qui menace de s'écraser. Mais ce qui rend ce jeu écologiste est que, pour gagner, il faut construire une civilisation suffisamment évoluée pour techniquement réussir à détourner la météorite, mais une société pas trop technophile non plus, qui ne prendrait pas le risque d'extraire toutes les ressources planétaires et ainsi éviterait de compromettre la survie de l'espèce humaine. Un jeu qui est finalement le symbole de notre écartèlement actuel, c'est-à-dire le juste équilibre à trouver, que nous avons du mal à trouver en ce moment, entre d'un côté plus de sobriété dans nos modes de vie et de l'autre le pari technologique qui a aussi du bon. Ces nouveaux Green Games qui envahissent la sphère du jeu vidéo ont le mérite de nous mettre dans la peau de joueurs et de joueuses qui agissent en harmonie avec la planète. Le tout est que la réflexion et l'action se répercutent aussi dans la vraie vie.
Merci Fanny Agostini, notre planète. Sur Europe 1.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Sonia Mabrouk et son invité Gérard Larcher.
Gérard Larcher, le gouvernement va réviser très certainement sa limitation à 30 personnes dans le cadre de l'exercice du culte. Vous y êtes sensible, Gérard Larcher ?
Ah, écoutez, l'exercice du culte est le seul exercice que je peux encore faire. Laissez-moi faire de l'exercice. Non, non, ne me coupez pas, madame Mabrouk. Vous voyez bien que... j'ai du mal à respirer avec mon casque.
Oula.
Vous savez que je peux partir en syncope à tout moment. Je peux vous faire une Maradona en direct. Est-ce que, madame Mabrouk, est-ce que vous avez une notion de secourisme, madame Mabrouk? Parce que moi, quand je réponds, vous savez, je suis un passionné. Vous savez, je peux vous faire des réponses interminables. Oui, moi, quand je réponds, je pars en jogging constitutionnel. Je cite tout le monde, le maire, le préfet, les deux chambres, les élus du territoire, le Parlement, l'article 24. Mais je n'oublie jamais de citer François-Noël Buffet. Ah, 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 Buffet, c'est mon sénateur préféré.
Oh.
Bravo, Julie.
Bravo, merci. Merci à vous deux. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité.
Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous retrouver. Europe 1, repas ou non, comment dire, en Argentine. L'actualité, c'est bien sûr, vous l'avez compris, la disparition de Diego Maradona. El Pibe de Oro est parti. Maradona, c'était la main de Dieu. Mais c'était aussi, il faut le dire, le foie de Gainsbourg et les artères de Gérard Depardieu. À 60 ans, la légende de Maradona nous a quittés. Donc. C'est d'ailleurs une semaine noire pour le sport. Nous appelons notre consultant sport, Nelson Montfort.
Oui, oui, bonjour, mon cher Mathieu, mes chers Julie, chers auditeurs, écoutez, oui. Une terrible semaine pour le sport. Christophe Dominici, un rugbyman exceptionnel qui est parti. Jacques Secrétin, ce pongiste exceptionnel qui est parti aussi. Diego Maradona, footballeur exceptionnel. Heureusement, pour lui, Richard Gasquet, vraiment, vraiment, Richard Gasquet est nul. Ça lui promet vraiment de finir centenaire à ça. Du côté du tennis français, je peux vous dire, ma chère Julie, qu'on est à l'abri du moindre événement tragique. À la limite, nos sportifs risquent quoi ? Une angine, un gros rhume, mais c'est vraiment un véritable maximum.
Vu comme
merci,
ça, ouais.
Merci, merci Nelson. Une légende est donc partie. Bonjour. Ah, désolé, j'ai un peu de retard, j'étais pris dans les bouchons.
Il y a pas mal, Frédéric Mitterrand. Vous voulez rendre hommage à Maradona, j'imagine.
Allez, on y va.
Ok.
3, 4. Adieu, tu nous quittes. Toi, l'incarnation du beau geste. Toi qui nous as tant émoustillé par ton jeu de jambes, si sensuel quand tu offrais la vue de tes cuisses séduisantes. Tu nous as enivrés de la vision de ton ventre parfaitement plat.
Quoi?
Et de tes jolies fesses rebondies. Ah. Toi qui jetais en direction du public ta petite culotte lors des
Frédéric,
concerts.
Frédéric, vous confondez Maradona avec Madonna.
Ah pardon.
C'était donc ça, oui.
Oui, pardon, évidemment, il y a quelques trucs qui collaient pas. Bon, je vais retourner bosser du coup.
Merci beaucoup, Frédéric.
Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai entendu là ?
Ah, Fabien Barthez, eh oui, Maradona est mort, Fabien.
Oh putain, Maradona.
Ben, ouais.
Ils vont faire un deuil national là, dans toute la Colombie, du coup.
Ah hein. Non, le deuil national, non. C'est en Argentine. Enfin, Maradona était argentin.
Ouais, mais bon, avec ceux qui s'enfilaient dans le nez, je peux te dire que c'est la Colombie qui va être en deuil. Oh putain, Maradona, j'y crois pas. C'est le mec qui a été. Pour moi, c'était un modèle absolu. En foot, en cigarette, non. Il m'a surpassé dans tous les domaines. C'était un génie. Hein.
Oh mon Dieu, donc, quelle tristesse, quelle tragédie.
Jean-Claude Gaudin, eh ben oui, on connaît votre amour du football, hein.
Oh mon Dieu, Madame Julie, ce matin, l'amoureux du ballon que je suis a le cœur qui saigne. C'est la mort du football.
Ah, dis donc, vous aimiez Maradona à ce point-là? Pour vous, sa mort, c'est la mort du football?
Maradona, mais quoi Maradona, la mort du football, c'était hier soir, 13 défaites d'affilée pour l'OM en Ligue des Champions.
Ah.
Hein, on s'en fout de Maradona, non, un record de 13 branlées consécutives. Madame Julie, Monsieur Béliard, Monsieur Mohamed, l'équipe est décédée. On n'est même plus aux soins palliatifs. Oh, bonne mère. Maradona est parti juste à temps avant de voir cela.
Allez, remettez-vous, Monsieur Gaudin. Merci à tous, en tout cas. Allez, on va parler d'autre chose. Jean Castex va préciser ce matin les conditions de l'allègement du confinement. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard. Bonjour à papy et à mamie qui nous écoutent entre deux tests PCR.
Alors, pour la réouverture des commerces, il faut compter un espace de 8 mètres carrés par client, comme surface autorisée. Bah, ça ne fera pas beaucoup de clients. Hein. Comment vont faire les petits magasins de centre-ville ?
Non, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Cela permet quand même d'avoir 12 clients par jour. Ce n'est pas rien. C'est quand même deux fois plus qu'en temps normal dans une librairie à Chalon-sur-Saône. Hein, à Chalon-sur-Saône, une petite librairie a plus de 5 clients dans la journée. C'est déjà un maximum.
Bon, ben vous allez évidemment parler de Noël. Hein. Il faudra limiter les grandes réunions familiales.
Oui, je l'affirme. 6 personnes, cela nous paraît raisonnable. Évidemment, choisir n'est pas chose facile. Mais c'est l'occasion d'être enfin honnête au cœur même de la famille. Car tous les parents vous le diront, il y a toujours un enfant que l'on aime un peu moins que les autres.
Hein?
Eh bien, celui-là, cette année, on pourra s'en passer.
Quoi?
Et pouvoir le justifier. Hein? Monsieur Béliard, comme tout le monde, il y a un de vos enfants que vous trouvez moins réussi que les deux autres. Si tant est qu'il soit réussi les autres. Mais soyez courageux. Dites-lui à ce gamin, laissez-le tout seul, du coup, dans le jardin, le soir du réveillon.
Non, mais
il comprendra.
Mais enfin, mais c'est pas vrai, il n'y a pas un enfant qu'on aime moins. Qu'est-ce que vous racontez?
Cette protestation somme comme un aveu, Madame Julie.
Oh bon, ça va pas, non?
C'est lequel que vous préférez le moins? Le Allez, vétérinaire? Évitez aussi de postillonner pendant le réveillon. Donc, évitez les sujets qui fâchent, comme l'immigration, hein, au moment du repas, la théorie du complot, ou ne parlez pas de l'héritage de papy et mamie pendant le repas. Non, pas de vague pour éviter. La troisième vague, c'est un slogan.
Alors, du côté des lieux de culte, les évêques sont déçus par la limitation à 30 personnes par cérémonie religieuse.
Non, ils exagèrent. Ils exagèrent, Mme Julie. Julie. Et 30 personnes à la messe, c'est beaucoup plus qu'en temps normal. On n'a pas vu une église avec plus de 8 personnes depuis 1956.
Mais qu'est-ce qu'il raconte?
Hérétique, mécréant, mais que dis-tu? Mais c'est faux, les églises sont bondées. Mais qu'attendre d'un fou qui pense que la messe est non essentielle et que les commerces de bouche le sont? Écoutez la parole de Dieu, non? Écoutez celle de son charcutier, oui. Jésus, pour toi, mais ce Castex, ce n'est qu'un saucisson, c'est ça? Espèce de paysan, d'ailleurs femelle, pour prouver à quel point la messe est plus importante que de s'empiffrer, j'interdis à ma famille de manger tant que les églises étaient fermées. Voilà.
Mais non, mais me dites pas qu'ils vont rien manger ou qu'ils n'ont déjà rien pu manger?
Non, hein? Rien, rien. C'est une hostie par jour. Parce que je ne suis pas un monstre. Alléluia!
Oui, allez, c'est bon. Merci, Philippe de Villiers. Allez, pour terminer, on dit un mot des magasins Décathlon qui ont décidé de retirer leur publicité de la chaîne CNews à cause des émissions de Pascal Praud et d'Éric Zemmour, notamment. Une décision qui a suscité la colère de Nadine Morano.
Mais Décathlon qui boycotte CNews. Non, mais on marche sur l'athlète, là. Salut, ben oui, ça va.
Salut.
Ouais, ça va, la Julie, Béliard. Salut, les troupes. Ben oui, Europe 1, c'est la radio toute bleue.
Ben oui, on assume.
mais moi, je suis furieuse contre Décathlon. Quoi? Voilà, je dénonce Décathlon. Ils sont contre la liberté d'expression, voilà tout. Non mais, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle refuser d'aller dans les émissions de Pascal Praud? Est-ce qu'on imagine Jean Moulin s'opposer à Éric Zemmour?
Bon écoutez, on imagine assez bien, oui. Donc vous boycottez Décathlon, vous?
Oui, depuis 40 ans que je boycotte Décathlon et j'en suis fier. Jamais de sport, la Nadine, voilà. 40 ans que j'ai pas mis les pieds dans un Décathlon. Et pourtant, regardez, voilà, j'ai un corps de naïade qui te fait... Eh oui, qui te fait rêver, Béliard. Regarde-moi ces biceps que j'ai. Il mate le petit vicieux.
Il est comme ça, Mathieu.
Bravo, Nicolas Cantelou et Julie, la revue de presque, à retrouver sur europe1.fr, bien sûr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Il est 8h56 sur Europe 1 et Philippe Vandel est avec nous. Culture Média, c'est la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Mais oui, bonjour. Demain, c'est la toute première édition des États généraux de la communication. On va parler de l'importance de cette filière dans notre info média du jour. Filière qui emploie pas moins de 700 000 personnes et pèse 50 milliards d'euros. On va recevoir une figure, Mercedes Herrera. C'est une femme, c'est la présidente exécutive d'Avas Worldwide, c'est-à-dire Avas Monde. Et c'est elle qui organise les États généraux de la communication. Ensuite, le journaliste Jean-Baptiste Boursier, il revient sur BFM TV, il présente BFM TVSD et BFM Politique, mais également du sport avec les soirées Champions League. C'était hier soir sur RMC Sport. On va voir s'il a les cernes. Et puis, Yarol Poupeau, le musicien, ancien membre du FFF, il était guitariste et directeur musical de Johnny, c'était le dernier. Il sort une autobiographie très très rock que j'ai lue. C'est complètement dingue, ça s'appelle Électrique. On apprend beaucoup de choses et même que les enfants ne devraient pas savoir.
Jusqu'à 11h, c'est Culture Média avec Philippe Vandel sur Europe 1. La matinée continue. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.